Et coucou les coucous, ça y est, nous sommes en live. Oui, on est un peu en retard parce que j'ai des problèmes de connexion à Facebook. Écoutez, ça arrive. Tant pis, nous ne serons pas sur Facebook ce soir. Nous serons sur YouTube et Radiomad, c'est déjà ça. Nous sommes donc en direct pour un nouveau C'est ça qu'on aime. C'est l'émission où on discute avec des gens passionnés de choses passionnantes. Donc c'est plutôt cool. Ce soir, donc je vous ai teasé un peu les sujets avec des animaux, indices sur les t-shirts. Voilà, au cas où. Et des pierres précieuses. J'ai teasé comme ça. Vous me dites lequel vous voulez en premier et puis on décidera. Et donc avant que comme ça vous avez le temps de me dire sur le chat YouTube ce que vous voulez, je vais présenter mes invités. Bonsoir les filles.
Bonsoir.
Salut.
Bonsoir.
Je suis donc avec Agatha, Lucie et Anne Fleur.
Lucille,
pardon.
C'est pas grave.
Désolée, mais du coup j'ai écrit Lucie à peu sur tous les sur tous les articles. Bravo moi-même. Salut les filles, est-ce que ça va déjà?
Grave. Merci de nous avoir invités dans C'est ça qu'on aime, Louise.
Mais merci à vous d'être venue, surtout parler de vos trucs chouettes et j'ai hâte d'en discuter avec vous. Agatha et Lucille, vous êtes deux lectrices de Mademoiselle.
Ouais.
Vous êtes passées en mai, on avait comment on appelle ça? Un vide livre. Voilà, ouais, c'est pas un vide dressing, c'était un vide livre.
Exactement.
Ou comme notre rédactrice Lucie Cosmala, qui se charge de la littérature, avait énormément de livres dont elle ne savait plus quoi faire dans ses 20 mètres carrés. Et ben, elle a dit autant les donner, puisqu'on en reçoit vraiment une vingtaine par jour chez Mademoiselle.
Ça prend beaucoup trop de place dans les bureaux.
Énormément. Donc les filles sont passées discuter un peu, récupérer des livres. Et puis en fait, je leur ai dit, mais venez participer, c'est ça qu'on aime. C'est trop bien ce que vous faites. Alors du coup, je peux pas teaser. Je peux pas vous dire, bon alors, vous faites quoi dans la vie? Parce que du coup, ça va complètement gâcher mon effet de surprise. Et Anne Fleur, bonsoir.
Bonsoir, Louise.
Normalement, les gens qui suivent un peu Mademoiselle connaissent ta plume. À minima, et ta tête s'ils regardent le vlog.
Écoute, je pense qu'ils m'ont déjà vu pour plusieurs dans plusieurs plans du vlog, et je sais pas si c'était extrêmement flatteur, mais oui, spoiler, je travaille chez Mademoiselle. Mais j'ai d'autres passions dont on va parler ce soir.
Oui. Donc tu es chargée des témoignages, tu es en stage, et en vrai dans la vie, tu es à l'ENS, ça pèse quand même.
Ça pèse dans le game.
Et donc, comme tu dis, tu vas parler de toute autre chose.
Voilà,
mais
alors
je suis overexcited.
Oh, ouais, j'ai tellement hâte, vous allez voir, c'est si bien.
Alors, du coup, que nous dit le chat? On a les animaux, les pierres précieuses, j'ai l'impression que c'est un peu égalité.
On peut tirer la plouffe. Hein.
Écoute, pierres précieuses, on y va ou pas?
Allez,
ouais, très bien.
Si on veut.
Ok, alors, Anne Fleur, tu vas nous parler ce soir du meilleur dessin animé de l'univers.
De tous les temps, mais tu as raison de dire l'univers, car. Toum, 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 je vais vous parler de Steven Universe. Et oui, vous en rêviez, nous l'avons dans C'est ça qu'on aime.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est l'histoire de Steven Universe?
Alors, Steven Universe, c'est une série animée qui a 5 saisons aujourd'hui, qui a entièrement été créée par Rebecca Sugar, qui est genre la femme de ma vie, si ce n'est plus. J'ai un gros king sur Rebecca Sugar. Elle est hyper positive, à l'image en fait de Steven Universe, qui sont des petites pépites de 11 minutes chaque épisode.
Tu veux boire quelque chose ou...
Et je vais boire quelque chose parce que, comme vous l'entendez, j'ai un chat dans la gorge.
T'inquiète. Pas de soucis.
Ce qui me donne une voix un petit peu de radio FIP, voilà, quelque chose un peu sourd, mais c'était pas du tout ma voix à l'origine. Et donc du coup, Steven Universe, et ben c'est l'histoire d'un petit garçon, Steven, ouais. Qui habite sur Terre, qui est hyper sympa et qui a été élevé par son papa et 3 gemmes. Les gemmes, ce sont des super-héroïnes qui ont des pouvoirs un peu magiques et qui arrivent de l'espace. Alors, ça a l'air complètement what the fuck. Ça l'est un peu.
Ça l'est un peu, oui.
Mais il y a une logique interne dans l'univers. Donc, tout se passe à City Beach, une espèce de petite île très paisible, un endroit un peu rêvé sur Terre, où Steven donc, est élevé par ces 3 nanas qui sont des aliens. Et qui sont en fait un groupe de rebelles qui défendent la Terre contre les autres gemmes qui sont une sorte de peuplade un peu super puissante dans l'univers qui ont des technologies bien plus développées que nous et qui en fait se voient la Terre comme un grenier à blé et à autres ressources gémiesques. Et donc du coup, ces nanas-là sont constituées en team et défendent la terre contre les colonisateurs gem. Et elles ont du coup un petit peu toutes ces valeurs qu'ont les groupes rebelles. Elles se sont construites dans l'adversité, dans l'altérité. Donc elles sont extrêmement solidaires, elles sont presque une famille. Et Steven, lui, il n'a pas de maman, parce qu'en fait, sa maman, elle est morte. Et lui et sa maman, c'était une gemme. Okay. Et donc, c'est ce petit garçon, c'est le fils d'un humain et d'une gemme. Et donc, on va, grâce à lui, comprendre un peu les enjeux de ces deux mondes qui se séparent et vivre des tas d'aventures ultra badass, car c'est aussi l'objectif de ce dessin animé, genre de la bagarre, des choses qui sont hyper... on est tenu en haleine pendant tous les épisodes et voilà, j'ai peut-être résumé un peu le pitch. Quoi.
Écoute, c'est pas mal. Est-ce que on fait une mini pause pour regarder le générique de Steven Universe?
Oui, je vais essayer de rien dire.
Tu peux chanter si tu veux.
Oh, me tente pas, Louise, me tente pas.
On y va. Allez, voilà.
We always find a way. Believe in. And Steven.
Tellement chou. Alors, les filles autour de la table n'ont pas vu, mais vous avez vu sur l'internet à quel point les dessins sont trop cool. En fait, les couleurs sont hyper pop.
Alors, c'est vraiment un truc intéressant que tu soulignes, parce que tout le monde n'aime pas, en fait, les dessins de Steven Universe. C'est très cartoon. C'est une série qui est diffusée sur Cartoon Network. Et la créatrice de la série, c'est aussi celle qui a créé Adventure Time. Donc, on est dans cette vibe très dessin simple, avec des traits qui peuvent paraître très enfantins. Mais alors il y a ces espèces d'aplats de couleurs, de fonds de paysage, il y a tout le temps sur City Beach des couchers de soleil et des mers en dégradé rose, mauve, bleu, et genre c'est extrêmement beau, et je trouve qu'en fait l'univers il est à l'image de la série, d'aspect très simple, parce que les épisodes durent 11 minutes, donc en fait, en 11 minutes, on vit peu de choses, même si les aventures de Steven et sa vie sont quand même bien remplies et l'arc narratif dépasse chaque épisode. Mais donc il y a ce côté voilà très simple, très très direct, et en même temps derrière il y a de la complexité, de la profondeur. C'est ça que j'aime bien dans Steven Universe.
Et il y a quelqu'un sur le chat qui demande, qui dit j'ai pas trop compris ce que c'est les gemmes. Alors du coup, c'est, si je comprends bien, des extraterrestres.
Ouais.
Et c'est un peuple d'extraterrestres. Et donc les trois principales qu'on vient de voir dans le générique, ce sont des rebelles.
Voilà. Alors, effectivement, la nature des gemmes, elle est pas si facile à comprendre que ça. On les appelle des gemmes parce que chaque personnage correspond dans le peuple de ces extraterrestres à une sorte de pierre précieuse. Donc, par exemple, Rose, la maman de Steven, c'était les quartz. C'est pour ça qu'elle est toute rose comme une pierre précieuse de quartz. Il y a Pearl dans le groupe de rebelles qui évoque la perle. Il y a Améthyste qui évoque l'améthyste. Garnet qui est le grenat en français. Et donc, en fait, elles sont immortelles comme les pierres précieuses. On peut les tuer, hein. C'est-à-dire on peut casser la pierre en fait.
D'accord.
Mais elles n'ont pas besoin de manger pour vivre. Si elles se font pas tuer, elles meurent pas. Donc en fait elles sont très différentes des humains aussi dans leur façon de concevoir le temps. Et comme lui, Steven, il grandit, il change, il apprend. En fait, c'est tout un monde qui se confond, parce que d'un côté, on a ces gemmes qui sont quand même elles-mêmes en changement, mais c'est beaucoup plus difficile quand on est confronté à l'infini d'une vie. Et du coup, à côté, t'as Steven qui pop à mort et qui les bouscule un peu. Voilà.
Et donc, lui, il a à peu près quel âge ?
Alors, Steven, c'est un peu difficile, c'est comme Titeuf. Difficile de lui donner un âge, mais je dirais qu'il a entre 9 et 11 ans.
Okay.
Parfois, il a l'air un peu plus vieux. Parfois, il a l'air un peu plus jeune en fonction des réactions. Mais Steven, grosso merdo, sa vie, c'est bouffer des donuts. J'ai utilisé grosso merdo, tu noteras.
Ouais, je note.
car les années 80 coulent dans mes veines. Mais ouais, Steven, c'est ouais, voilà, un petit garçon qui aime les donuts, qui aime les manger des frites, qui aime s'éclater avec ses copains, qui aime les jeux vidéo, la culture pop.
Et oui, c'est un petit garçon voilà. Vraiment humain, quoi, mais qui est dans un univers un peu barré parce qu'il y a des aliens avec lui, quoi.
Et qui l'élève, en fait. Enfin, okay. Et qui sont sa famille. Et ça, c'est un autre truc. En fait, j'ai pas encore dit pourquoi j'aimais ce dessin animé, non, parce vrai. Que là, pour l'instant, j'ai un peu présenté l'univers et tout. Mais si tu veux, je peux...
Je t'en prie.
Alors, la raison pour laquelle j'aime Steven Universe, c'est que c'est la série la plus feel-good de tous les temps. Chaque petit épisode, c'est comme un petit bonbon de bonheur qui te rend immédiatement paisible et bien heureux et qui te fait voir le monde d'une façon différente et un tout petit peu meilleure, en fait. Et c'est lié au fait que Steven Universe, c'est une série qui est subversive parce qu'elle montre comme qualité principale la bienveillance et la gentillesse. Et Steven, ce qui est très très rare en fait, et c'est le plot twist de tous les épisodes, c'est-à-dire que derrière, ce qui motive les personnages, c'est ça, et on se rend compte que bah, la gentillesse, c'est parce que là, ça a l'air très gnangnan, hein, dit comme ça, mais en fait, pas du tout. Les gemmes là sont des rebelles, ce sont des super-héroïnes, elles sont très très fortes. Et Steven aussi, lui, il apprend à se battre, il est encore un peu jeune, donc il fait des conneries, il essaye comme combien mal de suivre, ouais. Mais bon, ça reste un petit garçon, quoi. Mais il y a ce côté hyper bienveillant où on nous montre vraiment la gentillesse, l'entraide et la solidarité comme les qualités nécessaires et hyper cool pour être badass, quoi. Et donc, ces nanas qui ont des armes, des pistolets, et voilà. Et ben, en fait, l'arme ultime, c'est par exemple le dialogue. Comment résoudre un conflit de façon pacifique? Est-ce que vous avez déjà vu une série dont c'est le sujet? Bah en fait, là, quasiment tous les épisodes... Ouais, peut-être Avatar et Korra, on en parlait un petit peu, qui sont des séries, pour vous donner un comparatif, qui ont un peu le même genre de moto, quoi. La bienveillance, en fait. Et du coup, bah, la bienveillance, elle se retrouve... elle se dilue dans tout l'univers, pas seulement une façon de concevoir les objectifs des personnages, mais c'est aussi une façon de concevoir l'univers... Et donc, on a un univers très safe, en fait, avec une représentativité et une inclusivité qui est assez incroyable. Bah, par exemple, les gemmes, c'est tous des personnages qui sont genrés au féminin et qui ont des relations entre elles d'amitié, d'amour. Donc, moi, c'est la première série de ma vie où, bah, clairement, j'ai vu des personnages qui étaient lesbiennes, en fait. Pour une série quand même qui passe à l'heure du petit déjeuner, tu vois. Mmh. Et c'est normal, en fait, comme par exemple Steven, qui est dodu. Et en fait, jamais, à aucun moment de la série, ça va être la différence de Steven qui va être mise en... Voilà, genre, Steven est dodu. C'est pas ça, en fait. Personne ne lui dit, parce qu'en fait, tout le monde s'en bat les steaks. Ouais. Il est genre cool, il est drôle... Il est hyper badass parce que, genre, clairement, il a des pouvoirs magiques, quoi. Enfin, je veux dire, il a un bouclier magique hyper cool. Et du coup, en fait, on s'en fout qu'il soit dodu. Et c'est quand même assez fou parce que, d'habitude, dans les séries animées, notamment pour la jeunesse, on a des personnages qui sont très stéréotypés. On a je pense à la cour de récré, par exemple. On a le gros drôle, on a le petit garçon qui tente des trucs, on a la fille un peu gnangnan, on a l'intello. Et là, en fait, genre, on casse les codes totalement. Par exemple, la meilleure pote de Steven, Connie, qui a clairement des grandes lunettes et qui écrit des fanfictions et qui est fan d'univers qui pourrait s'apparenter à Harry Potter, pourrait être qualifiée de geek. Et elle l'est un peu. Mais elle n'est pas seulement ça. C'est aussi, elle apprend avec la famille de Steven à se battre. Et comme Steven, lui, son pouvoir, c'est un pouvoir défensif, bah en fait, elle apprend à défendre Steven elle part au combat en fait, et donc elle apprend le combat à l'épée. Et du coup, bah, elle est à la fois une guerrière redoutable, extrêmement, extrêmement badass elle aussi, et en même temps, bah, cette petite intello, parfois un peu timide. Et les personnages sont très complexes, et c'est cette complexité qui fait que l'histoire de Steven Universe, elle devient intéressante, parce que quand on est ambitieux avec ces personnages, quand on leur donne plus d'une seule facette, en fait, on a déjà mis la pièce dans la machine à sous, ouais. Le reste y découle, et voilà. On a une histoire passionnante avec un arc narratif qui nous laisse à chaque fois percevoir de nouvelles possibilités entre les persos et tout, c'est assez fou.
Donc tout à l'heure tu parlais de mini-épisodes, ils font environ 10 minutes, c'est ça les épisodes ?
Alors ils font 11 minutes les 11 épisodes, minutes, okay. Donc c'est vraiment pas chiant à regarder. Tu te mets ça le soir. Bah, alors le problème c'est que c'est un peu addictif, donc
tu te dis,
c'est 11 minutes, bon bah je m'en remets un, et au final t'en as vu 3, 4, 5 et rapidement ouais. Toute la saison.
Mais combien d'épisodes par saison ?
C'est une bonne question, je dirais qu'il y en a une trentaine, un peu moins, peut-être 25 par saison. Il y a 5 saisons. Il y a aussi des épisodes un peu inédits qui sont. Ah oui, parce que j'ai pas parlé d'un truc de fou dans cette série. Il y a des chansons qui sont encore mieux que les chansons de Disney.
C'est exactement ce sur quoi j'allais t'amener après, donc c'est bien. Tu fais mon interview à ta place, t'y penses. C'est très bien. Vas-y. Donc la chanson.
Et ben les chansons dans Steven Universe, c'est assez incroyable. C'est toujours Rebecca Sugar qui les écrit, qui les compose. Enfin, c'est voilà. Et alors il y a de tout. Il y a du jazz. Dans Steven Universe, il y a du rock dans Steven Universe, parce que le papa de Steven est un peu un loser rocker qui vit dans son van et n'a pas trop le sens des réalités, mais qui s'occupe beaucoup de Steven, et avec son van il nous emmène droit dans son cœur, parce que c'est un mec génial et qui est vraiment à l'écoute des sentiments de son fils et de ses sentiments à lui, donc ça aussi c'est chouette d'avoir un perso mec, rocker, voilà, mais à la
c'est
fois...
C'est aussi des failles
aussi. Enfin, ouais, et puis c'est pas seulement des failles de rocker blessé, non, pas du tout. C'est vraiment genre, il écoute ses sentiments, et c'est pas du tout vu comme un truc négatif de pleurer dans cette série, par exemple. C'est montré, en fait. Et on ne s'étend pas non plus deux heures dessus, quoi, mais voilà.
C'est partie... enfin, c'est naturel.
C'est ça, c'est naturel. Et du coup, bah voilà, je reviens aux musiques. Il y a des donc souvent les épisodes sont émaillés de petites chansons qui durent de 50 secondes à 3 minutes, 4 minutes, ce qui est long dans un épisode de 11 minutes. Et en fait, elles sont à la fois riches en termes musicales, elles sont hyper entraînantes. Vous avez entendu le générique, c'est brillant. Les paroles sont toujours cool, elles ont un vrai lien avec l'épisode, et ça étant l'univers de Steven d'une façon gigantesque, ça vraiment, quand on regarde cette série, je pense quand on est gosse, c'est des portes qui sont ouvertes. Et même moi, enfin, j'écoutais pas de jazz avant Steven Universe. Maintenant, j'en écoute parce que ça m'a vraiment donné envie d'en savoir plus, quoi. Et je pense que quand on a 11 ans, je vais reboire parce que...
N'hésite pas à tousser. Ouais, t'inquiète.
Ah, j'ai une grosse journée, donc j'ai la voix qui part un peu en live. Mais je sais plus ce que je disais sur les musiques.
Le jazz.
Et ben voilà, Steven, c'est ça. C'est à chaque fois des portes ouvertes, voilà, qu'on creuse parfois, qu'on effleure juste. Ça peut être... c'est peut-être bien de s'excuser quand on a fait une connerie. Ça peut être genre... Ah, mais tu connais pas ce type de musique ? Ça peut être comment on fait le deuil d'une relation ? Ça peut être qu'est-ce que c'est une relation toxique ? Il y a tout un épisode qui est consacré à un personnage qui a une relation abusive et toxique avec un autre personnage. Et vraiment, on fait de l'introspection alors que c'est conçu comme quand même une série... De combats, de guerres et tout. Il y a un long moment où Steven discute avec elle c'est une gemme du coup, pour essayer de comprendre ce qui va pas. Et en fait, ça va me permettre d'aborder un point capital de la série et la grande, l'immense, l'infinie originalité de Steven Universe. Les personnages peuvent fusionner. Les gemmes, elles ont ce pouvoir. Quand
juste entre elles ou avec des humains?
Alors, elles peuvent fusionner avec des humains aussi. C'est ainsi que Steven est né. Mais la fusion, c'est pas seulement baiser, en fait. C'est bien plus que ça, en fait. On peut fusionner avec un ami, on peut... En fait, une fusion saine, c'est une fusion qui se fait... alors, il y a une petite danse. Alors, il y a tout un tas de types de danse. Chaque personnage a sa façon un peu de danser. Il faut s'accorder à l'autre. Donc, c'est assez censé être harmonieux. Et quand c'est harmonieux et qu'on est d'accord, donc on apprend le consentement en regardant Steven Universe.
Tellement de concepts intéressants et un peu féministes.
Tellement bizarre. Peut-être que Rebecca Sugar serait un peu féministe.
Oh, dingue.
dingue. Et certainement, peut-être qu'elle serait aussi bisexuelle. En tout cas, il y a Mammouth sous caillou, clairement. Mais du coup, les personnages peuvent fusionner. Et ça permet en fait d'aborder énormément de sujets dans la série. Donc on le disait, c'est le consentement, c'est les relations. Donc on peut fusionner avec son ami. Alors par exemple, ça permet de donner de la complexité aux relations qu'ont les personnages parce qu'on ne sait pas. On sait pas si c'est ils sont juste amis, s'ils sont plus. S'ils se protègent, s'ils s'admirent et on le découvre et on se rend compte quand on regarde qu'en fait c'est ça les humains, c'est-à-dire que les choses sont pas figées, elles évoluent, c'est un peu différent des dessins animés en fait, et là c'est justement un dessin animé qui montre ça, c'est fou. Et effectivement il y a aussi les fusions qu'on veut pas, qu'on nous impose. Il y a un personnage, une gemme qui est pas rebelle, qui impose à une autre gemme une fusion. Parce qu'en fait, les fusions, ça rend très fort. Quand on fusionne, les pouvoirs s'augmentent. Et alors déjà, les gemmes sont quand même très fortes. Elles ont des pouvoirs magiques et tout. Mais là, vraiment, leur personnage fait genre 5 mètres de haut.
C'est le boss final, quoi.
4 bras. Ouais, c'est le boss. Du coup, vraiment, la fusion, c'est un outil de guerre. Et fusionner avec quelqu'un, ça peut faire changer le cours d'un combat. Mais en fait, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit d'imposer ça à quelqu'un, c'est mauvais. Et ça, c'est montré. Et c'est d'autant plus intéressant dans l'épisode dont je vous parlais, où il y a ce personnage qui a vécu une fusion forcée, qui a duré très longtemps, plusieurs mois où elle a été obligée de fusionner avec ce personnage. Et donc du coup, quand elle en sort, en fait, ça lui manque. Et Steven, il comprend pas au début, il dit « mais attends... C'est quelqu'un mais oui, c'est quelqu'un qui te veut pas du bien, Jasper, c'est la gemme qui a imposé la fusion. Et en fait si, mais c'est pas si simple que ça non plus de faire le deuil d'une relation toxique. Ouais. Et subtilement en 11 minutes, on comprend ça, c'est quand même une leçon qui est incroyable et d'utilité publique en fait, genre moi je trouve que Steven Universe, il faudrait que ce soit dans les programmes scolaires. Il y a tellement de choses qu'on apprend en regardant. Mais même moi, je me suis dit... Oh! Par exemple, il y a un épisode qui est toute une chanson où Connie, elle a fait un truc pas cool à l'école dont elle n'est pas fière du tout. Connie, c'est la pote de Steven. Et elle se sent pas bien, elle est pas bien toute la journée. Et en fait, Steven, il n'arrive pas à l'aider. Et là, il y a l'une des mamans de Steven, donc Garnett, qui est un peu une meuf hyper badass. Elle, quand ses chansons, c'est toujours du rap et tout. Et elle est genre grande lunette, posée, carrée. Quand elle fout un coup de poing à un mec, il s'écroule. Et elle arrive tout doucement et elle lui dit « Écoute, je vais te parler un petit peu, parce qu'en fait, Garnett, c'est une fusion. » Et elle lui dit « Voilà, dans la vie, Connie, on n'arrive pas toujours à concilier ce qu'on voudrait être. » Et ce qu'on est vraiment, moi, j'arrive pas à concilier les deux parties qui font que ce que je suis, quoi. Et en fait, elle lui dit, mais faut accepter, faut lâcher prise. Et donc, Connie, elle a son sac à dos. Et dans la chanson, du coup, on bascule dans un univers un peu rêvé. Et le sac à dos de Connie s'ouvre et il y a des milliers de papillons qui s'élèvent dans les airs. Et c'est tellement... on se sent bien quand on a vu cet épisode. On se dit, ah, mais oui, en fait, c'est tout con. Il suffit de se confier et de lâcher prise. Et ben, moi, c'est cet épisode de Steven Universe qui m'a donné cette leçon de vie. Vraiment, ah ouais, en fait, garder tout pour soi, c'est pas bon.
C'est pas une bonne idée.
C'est pas une bonne idée.
Trop bien.
Voilà.
Il y a Florian qui dit et si on achète les coffrets DVD de Steven Universe, est-ce que c'est remboursé par la Sécu? Ça serait bien.
Ça serait bien. Je pense que l'INPES, si vous nous écoutez,
n'hésitez pas.
N'hésitez pas à rembourser Rebecca Sugar. Non, en plus, il faut vraiment soutenir cette série parce que là, d'un point de vue plus série mania, tout ça, c'est une série qui rencontre un grand succès quand même, qui a un grand public, mais qui n'a pas le succès qu'elle pourrait avoir. Alors que les épisodes sont très simples, l'univers est quand même très facile d'accès, ça se regarde tout seul. Je pense parce que déjà c'est une série qui est faite par une femme. Je pense aussi que c'est une série qui est plutôt inhabituelle dans le paysage des séries et donc voilà. Et du coup, tant qu'à faire, si on se sent en accointance avec les thèmes de la série, si l'univers visuel nous plaît, mais regardons-la et parlons-en autour de nous, parce que ça vaut vraiment le coup.
Justement, il y a des gens sur le chat qui demandent où est-ce que tu la regardes.
Alors, elle est entièrement disponible sur Dailymotion. Il y a aussi le site de Steven Universe où on peut trouver tous les épisodes. Tout simplement.
Il y a des versions avec sous-titres quand on est moins à l'aise avec l'anglais ou c'est en anglais?
Justement, sur Dailymotion, c'est pas des versions sous-titrées.
Okay.
Après, d'ailleurs, je précise, vraiment, Steven Universe, c'est une série qui vaut mieux regarder en anglais parce que les voix en français sont vraiment très mauvaises. Ça, c'est très
comme
dommage.
Souvent.
Comme souvent. Il y a des séries bien faites, mais là, vraiment, la voix de Steven en français... Elle est vraiment pas top. Il a une voix comme ça qui décrédibilise totalement le personnage. Alors qu'en anglais, il a une voix hyper stylée et trop mignonne. Donc, mais effectivement, je crois que sur le site de Steven Universe, la série est sous-titrée. Ouais.
Et tu l'as découverte à quel âge, toi, du coup ?
Eh ben, en fait, il y a pas du tout longtemps. Je dirais il y a un an et demi, deux ans, peut-être deux ans quand même. Et je sais plus comment je suis tombée dessus. Je pense que j'en ai entendu parler dans mon petit univers de gens qui écrivent de la fanfiction. Vous-même, vous savez. Et en fait, du coup, j'ai regardé un épisode et je me suis dit, ah, bah, c'est révolutionnaire. Et donc, je me suis enfilée à saison 1. Et après, je me suis dit, oulala, calme-toi, Anne-Fleur, parce qu'il n'y a plus beaucoup de saisons. À l'époque, il n'y avait pas encore les... Voilà, donc du coup, je m'obligeais à m'en regarder un par semaine, quand ça n'allait pas bien du tout. Et même maintenant, dès que ça n'a pas, je me dis, allez, je me regarde un petit épisode, celui que je trouve le mieux ou celui dont j'ai le plus besoin, là, maintenant, tout de suite. Est-ce que j'ai besoin de guerre, de badass, d'amis ou simplement d'un petit boost de confiance en moi, et ben pour tout ça, il y a un épisode de Steven Universe.
Trop chaud.
Très convaincant.
Ouais, c'est grave. C'est bon, ok, d'accord. Quand je rentre, je vais regarder Steven Universe. Bon, d'accord.
Ouais, vraiment, si vous le faites pas, j'aurai trop les boules.
Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. Il y a quelqu'un sur le chat qui dit, mais en fait, c'est un peu une grande métaphore de notre société. Et en fait, j'ai l'impression que... on fait passer des messages à travers un enfant qui apprend plein de trucs que nous-mêmes, on aurait dû apprendre il y a longtemps. Et t'es là. Ah oui, c'est vrai que j'ai dit t'es là. Vous l'avez ou pas? Parce que, j'essaye de gommer mes tics de langage et je dis souvent t'es là. Voilà. Et c'est vrai qu'on se dit, souvent ah ouais, mais ça... je sais que moi, par exemple, typiquement, le féminisme, c'est un truc qui m'est venu assez tard quand j'étais, quand j'ai commencé à lire Mademoiselle, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'on apprend toujours, on rajoute des couches et que souvent les gens vont dire, je sais pas, notamment à des artistes ou des trucs comme ça, oui, mais il y a 5 ans, t'as dit ça. Oui, alors du coup, depuis, il a vu Steven Universe et il a compris des trucs. Et en fait, je pense que c'est un peu ça et c'est hyper cool qu'il y ait une série qui regroupe autant de thématiques importantes pour faire grandir un peu. Et en fait, rien que planter une petite graine pour dire... Et pense à ça la prochaine fois, peut-être.
Mais exactement, c'est vraiment ça. Et puis, ce qui est chouette, c'est aussi que là, ça a l'air d'être une série millefeuille. On s'est dit, allez hop, on va faire du body positive, on va mettre des lesbiennes, on va mettre des personnages racisés, on va mettre des gens... parce que tous les adultes exercent des fonctions qui sont pas du tout des fonctions de domination. On est laveur de carreaux, on est postier, on est... Enfin, dans Steven Universe, on n'est pas milliardaire, quoi. Et donc, du coup, on met tous les trucs et à la fin, comme ça, les gens seront contents. Mais en fait, c'est plus subtil que ça. parce que ça irrigue l'intrigue qui raconte l'histoire, cette histoire de colonisation, de guerre entre humains, aliens et tout ça. Et c'est plus, ça ne vient nourrir que c'est appliqué de façon grossière dans l'histoire. Et du coup, c'est d'autant plus subtil et ça rend les messages d'autant plus accessibles, je trouve. Ça qui est bien. Parce que parfois, on sent, devant certaines productions culturelles qui veulent être pédagogiques, on se sent un peu écrabouillé.
Ouais, c'est un peu forcé, quoi.
Voilà, là, c'est pas du tout l'idée, en fait. C'est juste genre, en fait, on peut faire une série cool, badass, à destination d'un public jeune, mais pas que. Un peu comme Mademoiselle, en fait. Steven Universe, c'est le Mademoiselle des séries. C'est-à-dire qu'on parle de plein de trucs, on va parler de donuts là-dedans, mais il va y avoir des épisodes entiers sur les pizzas, enfin vraiment un épisode entier qui se passe dans une pizza.
Et génial. Dans une pizza.
Et à côté de ça, bah voilà, on parle aussi de sujets super graves et importants, et ça se mélange bien, et c'est hyper jouissif, et agréable, et tellement bienveillant.
Tellement cool, ça donne trop envie. Je crois que tu as convaincu les trois quarts du chat et j'espère
en
que les
cas,
filles
nous,
vous avez été convaincues parce que moi je le suis. On va faire, à moins que tu avais quelque chose à rajouter sur Steven Universe.
Non, c'est
okay.
Bon.
Ok, écoute, tu as très bien fait ton plaidoyer, bravo.
Yes,
félicitations. On va faire une petite pause musicale et puis on se retrouve après pour parler du sujet de Lucille et Agatha. Ouh, vous allez voir, ça va être trop cool.
C'est l'autre jour en sortant de ma douche. Champ de vision qui se bouge, des accents de bande touche. Comme une odeur de sapin, funeste faisceau d'indices. Ce n'est pas encore la fin, mais j'en sens les prémices. Envie de chanter des sonnets, des cantiques habités. Mais la magie est à quelle génialité. Pas de répit pour ma peine, je décède chaque fois qu'une feuille verte étaye ce sinistre constat. Persona non grata. Ma plume ne veut plus de moi, persona non grata. Page blanche du trépas, persona non grata. Pour qui donc sonne ce glas, persona non grata. Me reprendre je dois. Ah, où soupes et pôle emploi. Me reprendre je dois. Peut-être je me suis trompé de mode, ok, mettons. J'ai beau retaper le code, mais personne ne répond. J'en ai parlé en haut lieu, où se mander pour le mieux. Je suis comme un cicasse sans gâte, mais ça les classiques sans batte. Sera, ne vois-tu rien venir, ni muse ni supplément. Rien pour sauver mon empire, me refaire tranquillement. Mettre un terme à mon calvaire, faire le lit du salut. Gommer d'un triste faux air de poète disparu. Persona non grata. Ma plume ne veut plus de moi, persona non grata. Page blanche du trépas, persona non grata. Pour qui donc sonne ce glas, persona non grata. Me reprendre je dois. Ah, où soupe c'est pour l'emploi. La trame rêvée du bonheur, celle d'une mine aux avoirs qui ne mérite pas son auteur. Je connais bien le sujet, j'en saisis les moindres aspects. Persona non grata, c'est quand on ne veut pas de toi. Persona non grata, ma plume ne veut plus de moi. Persona non grata, page blanche du trépas. Persona non grata, pour qui donc ça ne se glace. Persona non grata, me reprendre je dois. Où soupe c'est pour l'emploi. Me reprendre où je dois. Me reprendre, je dois.
Tu vas pas te bouger ça aussi. Faut pas arrêter le micro parce que du coup tout à l'heure je parlais comme ça.
les filles sont en train de stresser parce qu'elles vont passer à l'antenne, du coup elles sont là. Et non, donc faut pas que je bouge mon micro, faut pas que je bouge mon casque. Ça va aller, vous pouvez bouger votre casque, tout va bien, c'est pas un souci. Donc on est toujours dans C'est ça qu'on aime, et donc cette fois-ci, après avoir parlé de Steven's Universe, on va parler d'éthologie.
Oui, exactement.
Oh, waouh. Alors moi, la première fois qu'on m'a dit ça, quand j'ai rencontré les filles, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors je vous laisse faire la définition de l'éthologie.
J'ai pas la vraie définition.
Non, mais vous inquiétez pas, juste
mais
qu'est-ce que
c'est l'étude du comportement animal et humain.
Et puisque l'homme est un animal comme les autres.
Voilà,
oui, il
ne
faut pas l'oublier.
On dit d'ailleurs animal non humain, normalement, dans c'est notre ça. Domaine pour désigner les êtres humains.
D'accord.
Parce qu'on ne veut pas les différencier des animaux, puisqu'on est des animaux. Et donc, étude du comportement animal ou humain, et humain. Et nous, on s'occupe, on étudie les oiseaux, plus particulièrement. Bon, pas les mêmes, pas la même espèce, Agatha et moi. Mais on travaille, donc on fait notre thèse sur, moi, le chant des oiseaux, et Agatha sur la cognition.
Enfin, plus sur l'importance des liens sociaux, mais c'est l'idée. Mais l'éthologie, c'est très très large. C'est vrai que là, on a donné une définition, parce qu'il peut y avoir des éthologues qui vont étudier comment se sélectionnent les pucerons, hein, comment Monsieur Puceron rencontre Madame Puceron, ouais. Comme il y a des gens qui vont regarder comment les chevaux reconnaissent les têtes d'autres chevaux, ou encore...
comment les visiteurs d'un zoo circulent dans un parc, est-ce qu'ils vont voir plutôt les girafes,
premier,
plutôt les
etc.
éléphants.
Donc il y a une multitude d'études, et c'est vrai qu'on est un peu... C'est un peu le souci et la force... en tant que scientifique, c'est qu'on est hyper spécialisé sur un truc très petit et des fois très étroit.
Ouais.
Donc vous êtes spécialisé sur les oiseaux. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire chacune ce que vous étudiez un peu précisément, genre quel type d'oiseau et qu'est-ce que vous faites comme dans la vie au quotidien, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que c'est étudier le comportement des oiseaux?
Ouais, alors en plus nous c'est, du coup c'est pas du tout la même chose.
Vas-y,
donc,
toi d'abord.
Moi
toi
d'abord. Donc moi je suis en deuxième année de thèse. Donc, normalement une thèse c'est en 3 ans. Donc, uh-huh. Nous, on est financés pour 3 ans. Après, il y a toujours des moyens un peu... Il y a d'autres moyens pour réussir à continuer si on n'a pas fini en 3 ans. Donc moi, je suis en deuxième année et j'étudie donc les diamants mandarins, qui sont des petits oiseaux qui sont domestiques. Vous pouvez les acheter en animalerie. D'ailleurs, en général, à part les gens qui ont des diamants mandarins chez eux, personne ne connaît cet oiseau. Et qui sont originaires d'Australie et qui ont une caractéristique... pour le chant, c'est très intéressant de les étudier, parce qu'ils ont un chant très stéréotypé, on dit stéréotypé, donc assez simple, et qui se répète. Et en fait, ils vont apprendre leur chant pendant une période très courte de leur vie, et après cette période très courte, donc à 90 jours, ils sont plus capables de changer leur chant. Donc il n'y a que les mâles qui chantent, et donc c'est utile pour nous, parce que moi, mon sujet de thèse, c'est l'évolution culturelle du chant chez cet oiseau. Et donc, j'essaye de voir comment, au cours des générations, les oiseaux vont faire pour pouvoir faire évoluer leur chant, parce qu'il faut bien réussir à se différencier à un moment ou à un autre. Mais il y a quand même la notion de culture. Il faut aussi pouvoir s'intégrer dans le groupe, faire partie du groupe et être capable de communiquer avec ses congénères. Donc, en fait, j'ai des oiseaux qui ont été entraînés à produire le même chant, sachant que normalement, chaque mâle va produire un chant différent. Donc, nous, on a entraîné nos oiseaux, quand ils étaient jeunes, à produire exactement le même type de chant. Et ensuite, ces mâles-là qu'on a entraînés à produire le même type de chant, on les a mis en volière avec des femelles, on les a laissés se reproduire. Et au cours des générations, on analyse le chant des jeunes pour savoir si les jeunes mâles vont s'être contentés d'avoir reproduit exactement le modèle qu'ils ont entendu pendant qu'ils étaient jeunes, ou est-ce que par eux-mêmes, ils vont, grâce à des erreurs
changer
de copie
un peu,
ou des innovations, est-ce qu'ils vont essayer de s'éloigner de ce modèle-là? Et après, j'ai d'autres aspects dans ma thèse. Est-ce que ça va leur procurer un avantage avec les femelles? Est-ce que ça leur procure un avantage? Est-ce que c'est lié à leur capacité cognitive? Donc, je fais également d'autres tests en plus des analyses acoustiques.
D'accord.
Voilà, donc,
trop cool.
Alors, quand on parle cognition.
C'est plutôt de l'acoustique.
Quand
pour
on
moi.
Parle cognition, parce que du coup, Lucie, elle a fait. Tu vois, moi, c'est du coup, hein, ça arrive. Lucie, elle a fait aussi des tests. Parce que la cognition, c'est un terme un peu barbare, mais dans lequel on met tout ce qui est mémoire, apprentissage. Réflexion, entre guillemets, c'est un terme barbare qui, en général, englobe tout ce qu'on appelle l'intelligence. Donc, par exemple, toi, tu faisais des tests. Tu peux raconter l'histoire des plaques, là?
Oui, je faisais des tests. Donc, en fait, il faut savoir que c'est aussi des petits oiseaux qui ont un petit cerveau. Donc, contrairement aux perroquets d'Agatha, aux calopsites, on ne peut pas leur apprendre des choses très compliquées. Mais je leur ai appris à, en fait, soulever des petits couvercles en plastique. Déjà, ça, c'est compliqué. Donc, ils devaient apprendre à soulever les couvercles jaunes et non pas les bleus pour obtenir de la nourriture. Une fois qu'ils ont compris qu'il n'y avait que de la nourriture seulement sous les couvercles jaunes et non pas sous les bleus, j'inversais. Donc c'est-à-dire que maintenant, je mettais la nourriture que sous les couvercles bleus et je regardais combien de temps ça allait leur prendre pour comprendre que maintenant, les couvercles jaunes, ça sert plus à rien de les retourner et ça va, ils vont devoir échanger en fait leur apprentissage. Et donc, selon les individus, comme chez nous, on a des capacités cognitives différentes selon les individus, ben, ça va prendre plus ou moins de temps. Et donc, j'essayais de corréler ça ensuite avec leur capacité d'apprentissage du chant. Est-ce que, parce qu'ils ont des meilleures capacités dans ce test, est-ce que ça veut dire qu'ils auront eu des meilleures capacités pour reproduire le modèle de chant qui leur était disponible pendant la période d'apprentissage ? Bon, en l'occurrence, avec mes oiseaux, j'ai pas trouvé de lien, ce qui n'est pas forcément un mauvais résultat, hein, puisque au niveau du cerveau, c'est pas traité de la même façon l'apprentissage du chant et l'apprentissage d'autres tâches cognitives. Et donc ça, par exemple, c'est un des facteurs, un des comportements qu'on peut mettre en relation avec l'apprentissage du chant. Après, il y a plein d'autres choses dans les capacités cognitives. On peut faire des millions de tests. Bon, avec les diamants mandarins, c'est plutôt limité, mais j'ai encore plein de choses à faire, malheureusement. Normalement, j'ai un planning de thèse très chargé, donc j'ai pas fait la moitié de ce que j'aurais dû faire à ce stade-là, mais c'est un peu toujours comme ça, je crois, en thèse.
Mais donc, tu étudies combien d'oiseaux ?
Je ne les ai pas comptés parce qu'en fait, j'ai trois colonies différentes. D'accord. De diamants mandarins.
C'est quoi une colonie ? Ça représente combien d'oiseaux ?
Bah, en fait, on peut les laisser se reproduire. C'est un peu comme les souris. D'ailleurs, les diamants mandarins sont très utilisés parce qu'ils se reproduisent très facilement. Donc, c'est facile d'avoir beaucoup de générations. Donc, pour moi, c'est très utile. Et ils se reproduisent, tant qu'on n'enlève pas les nids et qu'on ne les empêche pas de se reproduire, en fait, ils le font de manière continue, quoi. Dès que les oiseaux sont sortis du nid, le couple reprend la reproduction. Donc, moi, au bout d'un moment, j'arrête parce qu'on a quand même des volières de taille limitée, on ne peut pas en mettre énormément. Mais j'ai environ, 70 oiseaux par colonie.
Waouh. Sachant qu'au début, il faut raconter que dans ta colonie, tu avais combien d'oiseaux ?
3 mâles, 3 femelles.
Voilà. Ouais. Et c'est en combien de temps que tu es passé de 6 oiseaux à 70 ?
Bah, normalement, j'aurais dû passer à 70 oiseaux en un an, mais là, ça fait presque 2 ans bientôt.
Donc, c'est déjà pas mal.
C'est quand même pas mal.
Et donc, j'ai 3 colonies. Et puis après, on a d'autres oiseaux dans l'animalerie qui servent à d'autres projets que le mien. Et... Donc, on a beaucoup d'oiseaux dans l'animalerie. Ça fait du bruit.
Fait des pouet-pouet.
Ouais. Et donc toi, Agatha ?
Alors moi, je suis sur une thématique assez différente de celle de Lucie, parce que c'est vrai que notre labo, à la base... Donc,
vous êtes dans quel labo ? Il y a des gens qui demandent.
Voilà, on est rattaché au laboratoire éthologie, cognition, développement, donc le LECD, qui est rattaché à l'Université de Nanterre, donc Paris-Nanterre, Paris 10 pour les anciens. Et donc, historiquement, notre labo, il a été fondé dans les années 80, si je ne m'abuse, et on travaillait sur le chant des oiseaux, et plus spécifiquement chez les canaris. Ouais. Donc les canaris, les petits pièvres jaunes, comme Titi, c'est celui-là, même si les canaris, en vrai, c'est pas forcément jaune. Et ce qui intéressait surtout les équipes, c'est de savoir quelles informations il y a dans le chant de l'oiseau. Est-ce que c'est « wesh, je suis trop beau, viens poulette » ou est-ce que c'est pour défendre son territoire ou pour plein d'autres choses ? Et surtout, quelles informations les femelles prennent dans le chant du mâle ? Quelles informations le mâle donne à la femelle ? Et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses assez subtiles. Et la grande découverte emblématique du début des années 90, qui auréole encore de gloire le labo, c'est la découverte de la phrase sexy, la sexy phrase. Et en fait, on s'est rendu compte que les mâles canaris étaient capables de faire un chant difficile à produire, qui lui demandait beaucoup d'énergie, avec une haute fréquence, donc en gros, super fort. Donc super fort avec une haute fréquence, et en fait, les femelles, ça leur faisait un effet fou, et elles se mettaient à faire une posture, genre « oh oui, tout de suite !» Et voilà, et c'était super intéressant de voir qu'il y avait un signal du mâle qui donnait tout de suite une réponse chez la femelle, et voilà. Mais depuis, on a étendu, parce que maintenant, depuis quelques années, on a des psychologues de développement qui travaillent sur le jeune enfant, qui nous ont rejoints, des gens qui étudient l'origine du langage chez les enfants, donc il y a... Tout le pôle avec Lucille qui travaille donc sur les diamants mandarins, sur donc cette transmission culturelle du chant, donc une grande partie aussi sur les signaux des mâles et des femelles chez les canaris, et moi donc je travaille sur les perruches calopsites, donc qui sont aussi des animaux qui sont domestiqués depuis les années 1840, un truc comme ça, qui sont reconnaissables par leur petite joue rouge façon Pikachu et puis leur crête sur la tête, donc ce sont des petites perruches qui sont aussi origine d'Australie. Et moi, à la base, ce que je voulais faire, c'était travailler sur tout ce qui était empathie et théorie de l'esprit. Alors là aussi, c'est un peu plus compliqué, mais pour faire vulgariser sans faire vulgaire, l'idée, c'est de voir ce qu'on comprend de l'autre. En fait, la théorie de l'esprit, c'est qu'est-ce que je sais que l'autre entend. Par exemple, c'est être capable de moduler le bruit qu'on fait pour pas être entendu quand on veut pas être entendu. C'est comprendre que si, par exemple, je fais ça, les autres vont comprendre que je vais attraper ma bouteille d'eau. Ou c'est être capable de se projeter sur ce que l'autre sait, veut d'une situation donnée. Et ce sont des choses qui, même chez nous, êtres humains, arrivent pas tout de suite, vers 2-3 ans. Mmh. C'est des choses qui arrivent, c'est apprendre à détacher soi de l'autre, c'est être capable aussi d'identifier les émotions de l'autre, et bah, si quelqu'un se sent mal, être capable de voir qu'il a besoin de l'autre. Donc moi je voulais voir surtout donc, ma thématique un peu grossière, c'est, donc, je travaille sur des perruches à Nanterre, mais je travaille aussi sur une espèce de petit corbeau qui s'appelle les choucas des tours, qui sont des petites bestioles grises comme ça, qu'on voit souvent sur les clochers des églises. Et moi, mon but, c'était de démontrer à la base, longtemps, quand j'ai commencé ma thèse, ce que je voulais, c'était...
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
C'est montrer la force du couple, en fait. Parce que ces oiseaux sont des oiseaux qui sont ce qu'on appelle monogames. Ils ont un seul partenaire.
Toute leur vie ?
Ça, c'est la théorie. Parce que dans la pratique, même quand ils sont monogames, des fois, il y a quelques petits écarts. Hein, c'est pas toujours...
Trop mignon.
Mais normalement, en tout cas, quand ils sont fixés chez les perruches, chez les perroquets, normalement, ils restent quand même fidèles. Et chez les choucas, c'est aussi assez fort, les liens. Les couples sont tout le temps ensemble, ils passent du temps, ils se papouillent, ils font des échanges de nourriture, il y a vraiment pas mal de choses qui se passent. Et moi, en gros, je voulais faire des tests de situations où les animaux devaient céder ou devaient partager la nourriture. Et je voulais montrer qu'au sein du couple, bah, c'était super fort, parce que l'amour supporte
plus
tout.
Fort que
tout. Voilà, exactement. Et puis bon, après, la réalité du terrain est différente. J'ai commencé ma thèse, j'ai acheté les oiseaux, ils étaient petits, ils étaient bébés. Et en fait, moi, je pensais qu'ils allaient être prêts à faire des couples au bout de 18 mois. Et en fait, non.
Personne s'est mis en couple. Dans...
Bah, en fait, on a eu de la reproduction là, juste en décembre, ce qui correspondait à mes 3 ans et demi de thèse. Et on disait tout à l'heure qu'une thèse était 3 ans, donc autant dire que voilà, c'était un peu plus tard que prévu. Donc j'ai un petit peu étendu, mais j'ai regardé l'importance des liens sociaux, donc le fait soit d'être en couple, mais aussi, parce qu'il n'y a pas que le fait d'être en couple, le fait d'être amis, parce que les couples, on peut avoir des couples hétérosexuels ou homosexuels qui ne font pas de tentatives de
dans
sexe
les oiseaux
entre eux. Ouais, tout à fait. C'est moi, j'ai des oiseaux. Alors, pour mesurer si des oiseaux s'aiment bien, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde combien de temps ils passent côte à côte, puis on regarde s'ils se tapent dessus ou pas, s'ils se tolèrent, et puis on regarde aussi ce qu'on appelle en anglais l'allopreening, c'est-à-dire le toilettage mutuel. Donc, ils se font des gratouilles, des câlins, à s'épouiller les plumes. Et en général, on observe ça entre des oiseaux qui ont des liens assez forts. Et donc moi j'ai vu ça entre les amis, les partenaires de couple, mais aussi les frères et sœurs. Parce que les frères et sœurs, mine de rien, ils ont été élevés ensemble et en général, ils ont des liens d'affection assez marqués. Et voilà.
Je pensais pas du tout que les oiseaux, ils pouvaient avoir des liens entre frères et sœurs.
Si.
Je pensais que quand c'est on sortait du nid, on partait faire sa vie.
Alors ça dépend des espèces. Ouais, ça dépend vraiment des espèces. Je sais pas ce qui est le cas chez toi, si t'as déjà regardé.
Bah, chez le diamant mandarin, il reste quand même en grande colonie, même dans la nature. Malheureusement, on a très peu de connaissances de la vie du diamant mandarin en nature, ouais. Parce qu'il vit en Australie la plupart du temps dans le désert.
Donc c'est super.
Ils sont très difficiles à trouver et très difficiles à suivre surtout. Mais en tout cas, on sait qu'ils vivent en grands groupes, et notamment en grands groupes familiaux, en fait. Et donc, ils partagent la plupart de leur vie avec leurs frères et sœurs. Et notamment, les mâles, quand ils apprennent leur chant, non seulement ils apprennent leur chant en écoutant les adultes, mais ils apprennent leur chant mutuellement en s'écoutant. Donc, il y a aussi une forte probabilité que deux frères aient un chant presque similaire, proche. En fait. Et ils s'imitent les uns les autres. Et ils partagent aussi, ils font, comme chez les calopsites, de l'allopreening, donc ils se toilettent. Les diamants mandarins, ils sont tout le temps groupés, c'est des oiseaux très sociaux, donc ils passent leur temps à se faire des papouilles.
Ils sont collés les uns aux autres.
Même pour manger, ils sont collés,
c'est
ils sont
tout c'est trop le temps ensemble.
Anne-Fleur, elle va vouloir devenir un diamant mandarin. Après,
mais, oui, j'aimerais.
D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont intéressés, n'achetez jamais un diamant mandarin seul dans les animaleries. Oui, des fois, ils le font.
Super malheureux.
C'est absolument terrible pour eux. Il faut minimum les prendre par deux. Ouais. Voilà, petit,
si on veut étendre le débat, moi je dirais qu'il ne faut pas prendre non plus de perruches et de perroquets seuls. Parce que,
on avait eu des animaux très sociaux et ils sont malheureux.
On avait eu un débat parce que justement, j'avais des gens qui m'avaient demandé si un perroquet qui parlait c'était une bonne chose. Et en fait, un perroquet qui parle, c'est parce qu'il est tout seul et qu'il est obligé de parler avec son intermédiaire humain. Mmh. Alors que s'il est que avec d'autres perroquets, bah, il n'a pas besoin d'imiter la voix humaine. Et en théorie, il vit une vie plus équilibrée et plus. saine.
Plus naturelle.
Plus naturelle, ouais.
Et donc, il y a des gens qui demandent un peu quel master vous avez fait, etc. Donc, je pense qu'on peut revenir sur votre parcours global. Par où vous avez commencé et comment est-ce que vous êtes venu?
On a à peu près le même.
Plus ou moins.
Il y a deux façons différentes de faire de l'éthologie. Il faut le savoir parce qu'il y a plein de gens qui, comme moi, sont peut-être pas scientifiques dans l'âme et vont peut-être s'éviter de souffrir pendant des années pour arriver à ce statut-là. Pour faire de l'éthologie, en fait, c'est pour avoir le statut d'éthologue, c'est un master, donc bac plus 5. Ouais. Il faut faire une licence, mais on peut faire aussi bien une licence en biologie qu'une licence en psychologie. Les deux sont possibles. Et ensuite, au niveau des masters, en France, il y en a plusieurs, il n'y en a pas des masses. Il y en a un à Paris 13, donc c'est là où nous, toutes les deux, on a fait notre M1.
Ouais.
Il y a
Rennes,
il y a Strasbourg. Alors chacun a sa spécialité, c'est-à-dire que Paris 13, ils sont très théorie à fond sur. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'ils font pas mal venir d'intervenants extérieurs, donc c'est bien de voir que, bah, par exemple, il y a des chercheurs à l'INRA de Tours qui travaillent sur la brebis, il y a des gens à Saint-Étienne qui travaillent sur le champ de diamants aussi. Enfin, ils font venir pas mal d'intervenants ailleurs, mais ils sont très axés théorie. À Rennes, au contraire, ils font
beaucoup de travaux pratiques.
Toi, tu les as faits.
Ce qui est très bien à Rennes, c'est que, surtout si vous aimez les oiseaux, il y a, moi, dès la licence, en fait, je suis partie en licence 2 là-bas parce que j'ai fait une licence 1 de biologie classique, on va dire, et puis les plantes et les cailloux, c'était pas trop mon truc. Donc, je suis partie à Rennes pour faire de la biologie animale. Et dès la licence 2, ils ont des modules d'éthologie, de comportement animal. Et on fait des sorties en forêt pour écouter le chant des oiseaux et essayer de les reconnaître.
Patauger dans la boue.
Ouais. Et ça, moi, j'ai vraiment bien aimé. Donc après, si vous n'êtes pas trop bio, c'est vrai que c'est un peu difficile parce qu'on a quand même des cours de bio très, très appliqués. Mais en tout cas, ouais, par les deux... En master, ils acceptent et des biologistes et des psychologues.
À Paris 13, il y a presque autant de l'un que de l'autre. Et on a pas mal de collègues qui sont arrivés en thèse qui avaient fait aussi bien psycho que bio. Donc je pense pas que ce soit un handicap. Au contraire, c'est une façon différente d'aborder les choses. Pour finir le tour des masters, il y en a un autre à Strasbourg qui est avec un haut taux niveau recrutement. Ils sont assez tatillons sur les dossiers.
Il y a pas mal de physio.
Ouais, c'est pas mal axé physiologie. Donc physiologie, c'est tout ce qui est fonctionnement du vivant. Donc au niveau des systèmes hormonaux, des systèmes, tout ça. Donc c'est un peu précis. Il y en a un autre à Saint-Étienne qui est plus généraliste et qui est plus axé écologie, je dirais, où vous allez être amené à faire un herbier avec des petites plantes et des sorties dans la forêt. Donc c'est plus global. Et il y a quelques notions aussi, je crois, à Toulouse et Montpellier. Mais ce ne sont pas des masters entièrement dédiés à l'éthologie. Les principaux, c'est Strasbourg, Rennes, Paris. Oh.
Mais en tout cas, vous n'avez pas besoin d'avoir eu 18 en SVT, au bac, pour réussir à faire de l'éthologie.
Moi, j'ai tellement souffert toute ma vie. J'étais tellement nulle en maths, en physique.
Et moi, d'ailleurs, j'ai fait mon master 1 à Paris 13, comme Agatha, donc en éthologie. Donc en M1, c'est vraiment que de la théorie. On apprend même pas vraiment le comportement de tel animal, on apprend surtout comment étudier les animaux.
D'accord.
Et c'est beaucoup de la méthodologie. Et en fait, en Master 2, j'ai dû faire un choix parce que...
Stratégique.
Un choix stratégique parce que en Master 2, il faut déjà penser, est-ce qu'on veut faire une thèse? Donc est-ce que déjà on va en Master 2 professionnel pour travailler dans un zoo, dans une réserve naturelle?
Sachant que le Master Pro, il n'existe qu'à Paris 13.
Ouais.
Les autres masters sont plutôt pour préparer
Master
la thèse.
Recherche, Master 2 recherche. Et dans ce cas-là, il faut idéalement, en Master 2, demander à son encadrant de faire une thèse avec lui, si on a aimé son stage. Et donc moi, mon encadrant en M2 m'a proposé de continuer à faire ma thèse. La seule condition était que je sois interne à la fac de Nanterre pour pouvoir continuer ma thèse à Nanterre. Et donc j'ai dû faire un Master 2 de psychologie. Alors que je n'avais jamais fait de psychologie de ma vie.
Mais elle a quand même fini bien classée.
Et finalement, c'était pas si dur. Donc on peut aussi changer. J'ai fait biologie pendant 4 ans et puis j'ai fait un master 2 de psychologie. Et ça m'a permis du coup de décrocher ma thèse à Nanterre. Et j'ai appris plein de trucs, même si c'était pas vraiment mon truc à moi. J'ai appris plein de choses.
On voit aussi comment sont menées les études en psycho. Ouais. Et c'est intéressant parce que c'est pas forcément les mêmes méthodologies. Ouais. Il y a des choses intéressantes.
Il y a plein de moyens. Puis en ce moment, on va dire que c'est un peu en vogue. Enfin, c'est un peu à la mode comme sujet. Donc malheureusement, la compétition, je crois, est de plus en plus rude. Mais en tout cas, il faut s'accrocher, quoi. Si on est motivé, ça va, mais il faut vraiment être motivé pour...
Parce qu'il faut juste savoir, moi c'est ce que j'allais raconter à tous les étudiants que j'ai encadrés, c'est que Moi, je ne suis pas du tout pour faire un discours, on parle de bienveillance. Hein, il ne faut pas du tout décourager les jeunes gens qui ont envie de se lancer parce que c'est un métier merveilleux. Enfin, moi, j'estime que c'est celui que j'ai toujours voulu faire et c'est vrai que c'est un métier que j'apprécie particulièrement. Mais c'est un métier où, bah, malheureusement, en Master 1, à Paris 13, moi, l'année où j'y étais, il y avait 60 étudiants. En Master Recherche, on n'était plus que 14. Et l'année où j'y suis allée, on a été 4 à décrocher une bourse de thèse.
Ouais.
Sachant que moi j'ai mis 2 ans à obtenir ma bourse de thèse parce que j'ai galéré ma race et voilà et ensuite je l'ai eu. Mais il faut savoir que c'est compliqué. À la fin de la thèse, il y a aussi beaucoup de gens qui laissent tomber parce que le système de la recherche est très compétitif. C'est-à-dire que après le master 2, donc si tout va bien pour vous, paf, vous passez devant un concours. Donc c'est l'école doctorale, c'est un groupuscule au sein de la fac, un jury qui vous évalue et qui vous dit si oui ou non, pendant 3 ans, il vous donne un salaire tous les mois pour faire des recherches. Donc quand vous l'avez, c'est cool. Ouh, pendant 3 ans, pour la retraite, on a de l'argent, c'est merveilleux. Et ensuite, bon, alors la thèse, il faut savoir que bah, ça se passe pas toujours comme prévu. En gros, on a un planning et puis on se dit bon, bah, j'ai 3 ans pour faire ça.
Comme prévu, je crois.
Sachant qu'en général, c'est bon, vous avez 3 ans. Et puis, bah, bon, en fait, il faut que vous agrandissiez le savoir de l'humanité sur ce sujet précis. Vous avez 3 ans. Allez, top chrono, pop, pop, pop. Vous savez pas comment faire, c'est normal. Hop. Donc, bon, des fois, on déborde un peu. Hein. Moi, je suis en 4e année. Ouh, voilà. Et une fois que la thèse est faite. Donc c'est merveilleux, vous écrivez votre manuscrit. La fin de la thèse, en fait, c'est une espèce de super rapport de stage qui fait 300 pages, qui résume vos 3 années de recherche, que vous présentez devant un jury qui vous dit « Vous avez bien travaillé, bravo, bravo, vous êtes docteur. » Donc du coup, vous répétez après, vous dites « Yes ». Et ensuite, le système veut, si vous avez fait votre thèse en France, que vous partiez à l'étranger. Alors c'est très bien, partir à l'étranger, ça éveille plein de choses, etc. Mais il faut savoir qu'en fait, après la thèse, il y a ce qu'on appelle des post-docs, qui, comme son l'indique, sont post-doctorat. Concrètement, les post-docs sont des CDD de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, selon ce que l'on trouve. Le plus souvent, donc, à l'étranger, ils sont financés par ce qu'on appelle des bourses de recherche. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir cherché soi-même les sous en amont. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de temps. Ne cotisez pas pour la retraite, parce que c'est une bourse à l'étranger. Et donc, ça ne marche pas. Vous faites vos recherches pendant 3 ans, il faut que vous publiez, parce que ce qu'il faut qu'on dise, c'est qu'on fait jouer avec nos oiseaux, mais en fait, le but, un chercheur qui a du succès, qui fonctionne bien, il faut qu'il produise, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse une expérience, et qu'il faut qu'il... Quand son expérience fonctionne, alléluia, c'est pas toujours le cas, il faut qu'il fasse savoir au monde entier ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'il écrive une espèce de rapport. Alors, en général, un article scientifique, je sais pas, ça fait...
Entre 6 et 15 pages, quoi.
Ouais, mais en format Word, ça fait 20-25, comme un rapport. Et en gros, on explique, on rappelle le cadre théorique, on dit quelle manip on a fait. Il faut que les gens soient capables, en le lisant, de pouvoir la reproduire. Et en gros, dire, bah écoutez, j'ai montré que, pouf, y avait de l'empathie chez les perruches, c'est merveilleux, j'ai changé la face de la science. Et il faut le publier. Sauf que le processus de publication, c'est compliqué, parce que les journaux scientifiques, en fait, sont ce qu'on appelle des journaux à comité de lecture, c'est-à-dire que vous avez un jury d'experts, anonymes, qui évaluent votre travail, et qui vont dire, bah ok, là, on veut bien le publier, mais changez ça, ça, ça. Puis des fois, bah, ça prend 6 mois, parce qu'ils vous envoient le document, et puis ils le corrigent, et puis ils vous le renvoient, et puis ils le renvoient. Et vous avez donc cette pression-là. Et le problème de l'après-thèse, c'est ça, c'est que vous devez en gros enchaîner ces fameux post-docs où vous devez publier un maximum pour avoir un beau CV. Et le but, en général, c'est, si on est attaché à sa mère patrie, d'essayer de revenir petit à petit vers la France et obtenir un poste stable. Le plus souvent, c'est au sein d'une université, parce que ça dépend du ministère de la Recherche. Soit c'est dans les grandes entreprises, enfin les grandes entreprises, pardon, parce qu'en éthologie, on faut être franc, hein, les entreprises, elles ne peuvent pas faire grand-chose avec nous, mais plutôt tout ce qui est organisme type CNRS, le Centre National de Recherche Scientifique. Là, ce sont des postes sur concours, donc on passe aussi devant des jurys, et la sélection est très ardue. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, l'entrée, je crois, pour avoir un poste, la moyenne d'âge était 30 ans, 32 ans, et cette année, je crois qu'elle est passée à 37.
Super.
Voilà.
Donc il faut être motivé pour faire ça.
Donc en fait, si vous aimez l'aventure, en vrai, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un métier, parce que là, on dit les aspects qui peuvent rebuter, parce que hein, bêtement, si vous avez un compagnon, une compagne, et que vous devez changer de métier, de pays tous les 3 ans, c'est pas toujours simple, sauf s'ils sont graphistes et qu'ils peuvent vous suivre partout avec leur ordinateur. Mais
et encore.
Et encore. Et encore. Ouais. Et encore. Mais c'est un métier ultra stimulant dans le sens où...
T'apprends tout le temps de nouveaux trucs.
On apprend tout le temps des nouvelles choses. Et même si on est dans le cadre d'une expérience où il faut faire tous les jours le même processus, bah, chaque journée est différente parce qu'on travaille avec des animaux, avec du vivant. Bah, et puis il y a des jours où ils ne vont pas faire la même chose que la veille. Et puis vous êtes toujours confronté à des nouveaux problèmes qu'il faut essayer de résoudre en se disant bah, « Pouf, aujourd'hui, bah, ma lumière ne fonctionne pas, ma caméra est en rade, qu'est-ce ça. Que je peux
faire ?» Tu développes tes compétences, ouais, c'est ça. Moi, je suis arrivée en thèse, je ne savais pas faire un seul branchement. Enfin, vu que je fais de l'acoustique, je suis obligée de trifouiller des fils électriques, brancher des micros. Enfin, je ne savais rien faire de ça quand je suis arrivée. Et puis j'ai appris, on apprend sur le tas et on apprend plein de trucs. On fait des petits dispositifs avec nos mains, il faut être un peu bricoleur, un peu
inventif. Des fois avec du carton. Après, t'as un peu honte de le montrer dans le public. Bon alors, mon dispositif, en fait, c'était un paquet de biscottes. Je l'ai découpé là, et puis là, et puis...
Non, mais c'est bien. Enfin, franchement...
Non, mais c'est un métier très stimulant, et c'est vrai que... Alors, ça dépend aussi de... Enfin, on a des contacts aussi privilégiés avec les bestioles, hein, faut le dire aussi. Moi, clairement, si j'ai choisi ce métier-là, c'est parce que... J'ai toujours adoré les animaux. Alors, ça fait très cliché. Tous les profs de Paris 13 vous disent dans votre lettre de motivation, dites jamais que vous aimez les animaux pour faire de l'éthologie, parce que tout le monde le dit. Bah oui, mais bon, tu vas pas faire de l'éthologie parce que t'aimes les champignons. Enfin voilà, ça semble logique. Et c'est vrai que, par exemple, j'ai eu quelques moments privilégiés où j'étais avec des corbeaux très près, où t'as une vraie relation qui se noue, parce que mine de rien, quand t'es 6 mois tous les jours avec ton piaf, bah, il se passe un truc. J'ai eu la chance de bosser au Muséum d'Histoire Naturelle avec des capybaras, c'était trop cool. Enfin, tous les matins, j'arrivais, ils me suivaient, et puis je leur grattais le nez, et puis ensuite, je disais « Allez, mes pépères !» Et puis hop, je leur donnais des petits bouts de carottes, des petits trucs et tout. Et c'était super chouette. Et puis, il y a le côté aussi d'aller voir les coulisses. D'ailleurs, tous les gens du Muséum d'Histoire Naturelle étaient géniaux. C'était la ménagerie, et les soigneurs, ils étaient tous aux petits soins, alors que clairement, je les faisais chier, les pauvres, parce qu'ils avaient un planning, il fallait qu'ils nourrissent tous les animaux à telle heure. Et puis moi, j'étais là, oui, bah, bonjour, moi, j'aimerais que vous me rameniez mon seau avec mes carottes pour que je fasse mon expérience. Et puis, ils étaient vraiment adorables. Et c'est vrai que c'est des super moments, quoi. Enfin, des fois, c'est dur, mais là, par exemple, moi, j'ai une copine qui est en Afrique du Sud pour son post-doc, justement. Et elle se lève à 4h30 tous les matins, mais elle va observer les vervets, qui sont des singes qui vivent dans la brousse africaine. Et tous les matins, et voilà, le lever du soleil façon royon, tu vois, là. Ouais. Et puis, t'as les animaux partout, les phacochères, les antilopes. Et puis, alors, c'est dur, hein, parce que bah, tu bosses de 5h du mat à 18h, il y a les moustiques, il y a les plantes urticantes, c'est pas toujours drôle, mais t'as des moments de grâce comme ça, quoi. Ouais.
C'est un peu comme les enfants, quoi. T'as 90% de relou pour 10% de génial, et du coup, tu te dis, bon, bah, ça va, ça passe.
Excuse-moi, mais du coup, c'est vrai qu'au niveau du pourcentage de roulitude, je pense aussi qu'on a tous des expériences différentes, parce que la thèse, c'est vrai qu'on le dépeint aussi comme une grosse galère, mais pas toujours, parce que ça dépend de sa personnalité à soi, de ce qu'on est prêt à encaisser comme difficulté ou non, en ayant le sourire ou en râlant, en disant, ah, mon Dieu, ma vie était un long calvaire. Ça dépend aussi de son encadrant, parce que, mine de rien, le directeur de thèse, la directrice de thèse, c'est vachement important. Et il y a des gens qui adorent être laissés tout seuls et être plein de ressources et se dire wouhou, il y en a d'autres au contraire qui disent j'ai besoin d'aide, etc. Ouais. Et il y a des gens qui, je pense, pour qui la thèse ça a été la plus belle aventure de leur vie, donc il faut pas que
désespérer. Si vous êtes motivé, au moins faut essayer après.
Alors Lucie, justement, la question de base que tout le monde doit vous poser, c'est mais à quoi ça sert?
La bonne question. Donc c'est vrai que vu que nous, on fait de la recherche appliquée...
C'est très théorique.
C'est très théorique. C'est-à-dire que ce qu'on fait, déjà, c'est pas... Enfin, il y a des connaissances très précises à avoir. Moi, en acoustique, quand j'essaye de vulgariser ça, j'ai toujours un peu de mal parce que j'ai pas appris à le faire. Et j'utilise toujours des termes hyper compliqués. Et en gros, j'essaye... Il faut toujours, quand on explique, essayer de faire le parallèle avec les êtres humains, parce que malheureusement, c'est ce que les gens cherchent. C'est-à-dire, si vous faites de la recherche sur comment guérir Alzheimer... sur le vieillissement des cellules, tout ce genre de choses, les gens voient directement l'application. Ouais. Si vous étudiez le chant des oiseaux, les gens sont bah oui, mais...
On s'en fout.
Enfin, pas on s'en fout, mais en gros, il y en a, ils disent, mais vous êtes payé avec mes impôts pour faire ça. Ouais. C'est-à-dire, moi, j'ai déjà eu cette réflexion.
Quoi.
Vraiment, je paye des impôts pour que vous soyez payé à étudier le chant des oiseaux. Bah oui, mais c'est aussi ce qui fait avancer la connaissance sur les êtres humains. Par exemple, moi, mon étude, elle peut être... Enfin, d'ailleurs, elle est. J'ai une collaboration avec la partie justement des personnes qui s'occupent du bébé, qui font des études sur le bébé, parce que j'étudie comment le langage, du coup, le chant chez les oiseaux, se transmet de génération en génération. Et ça s'applique à nous. C'est directement relié à nous. Comment les oiseaux, les bébés oiseaux, ils vont apprendre leur chant. Ben, on s'est rendu compte qu'il y avait des phases d'apprentissage qui étaient directement corrélées avec les phases, enfin, qui ressemblaient très fortement aux phases d'apprentissage du langage chez l'enfant. Il y a le babillage. Au début, le petit oiseau, il va faire des petits qui ressemblent à rien, avant de réussir à faire un super chant qui est super attractif pour les femelles. Et c'est pareil pour le développement des capacités cognitives ou des préférences. Tout ça, c'est de l'apprentissage et ça peut être relié directement. En fait, en apprendre plus sur les animaux, c'est super. On en apprend plus sur notre monde. Donc rien que ça, ça devrait suffire. Ouais, malheureusement, pour la plupart des gens, ça suffit pas. Mais en fait, ça nous permet d'avoir les bases, ce qu'on appelle aussi la phylogénie. C'est-à-dire que au départ, on n'était pas aussi éloigné des animaux que ce qu'on l'est maintenant. Et on a évolué, comme eux. Au début, le langage chez les Cro-Magnons, c'était pas développé comme maintenant. Et en fait, ça nous en apprend aussi beaucoup sur l'être humain, comment on a évolué, pourquoi ces capacités-là, elles existent, pourquoi nous, on a développé le langage et alors que d'autres animaux n'en sont pas capables. Et donc, tout ça, en fait, c'est vraiment, la recherche fondamentale, c'est vraiment en apprendre plus sur le monde et sur nous aussi, à travers les animaux. Parce qu'en fait, on se rend compte, enfin, moi, maintenant, j'en suis persuadée, même si on n'en est pas persuadée en entrant en éthologie, on se rend compte qu'en fait, on est des animaux comme les autres. Et en fait, parfois, je me demande toujours pourquoi on fait cette frontière entre animal et humain, alors qu'en fait, on se ressemble parfaitement.
Oui,
quoi.
C'est ça.
Agatha, qui étudie l'empathie, c'est directement relié à ce que nous
on fait. En fait, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est quand les gens te posent cette question, il faut une utilité
directe.
Aux fins des êtres humains et pas juste à... Est-ce qu'on peut en apprendre plus sur le monde qui nous entoure, qui est quand même assez ouf?
Je sais pas si vous avez remarqué.
Moi, je trouve déjà que c'est hyper, en fait, appliqué. Peut-être parce que ma formation, elle est littéraire et donc nous, vraiment, les gens se disent... moi, j'ai pas voulu faire de thèse, mais c'était dans la droite ligne de
littérature, ça doit être de ma formation. Plus après, ouais.
Et exactement, et les gens... Et là, c'est encore pire. Et comment t'expliquer... en fait, effectivement, ça n'a aucun intérêt pratique.
Oui,
déjà, je trouve que rien que le fait d'étudier un truc comme des oiseaux, en soi, tu te dis c'est théorique, moi je trouve déjà assez pratique. Et on voit à quoi ça ressemble, on peut en tirer une conclusion directe et tout. Ça doit être quand même aussi satisfaisant, non?
Et puis, c'est carrément satisfaisant. Et puis, si vous. Enfin, je sais pas si. Enfin, je pense que tout le monde a déjà regardé un reportage animalier, au moins dans son enfance, etc. Mmh. Si on en est là aujourd'hui, si on peut les observer, c'est parce qu'au début, il y a quelqu'un qui s'est posé la question, mais. Enfin, pourquoi ils agissent comme ça, les animaux? Est-ce qu'on peut les approcher? Est-ce qu'on peut interagir avec eux? Enfin, il y a toujours des gens dans le monde qui sont capables, enfin, qui sont intéressés par ce qui les entoure, et heureusement, enfin, même si ça vous intéresse pas vous personnellement, ça touche en fait le monde entier. Et nous, on fait partie de ce monde-là. Même si on s'est éloigné de notre nature, on va dire animale, c'est quand même quelque chose qui est proche de nous et qui peut aider tout le monde un peu aussi à comprendre pourquoi il faut qu'on protège notre planète. Ça revient un peu.
Ouais.
Non, mais c'est vrai qu'en fait, il y a plein de choses qu'on ignore. Nous, on apprend des trucs. Moi, j'apprends des trucs tous les jours, même en éthologie. Enfin, on découvre tous les jours des nouvelles espèces d'animaux, d'insectes, de plantes, tous les jours des nouvelles capacités qu'on ne pensait pas exister. Et je pense qu'un jour, j'espère, on se rendra compte qu'en fait, animaux, humains, c'est pareil. Enfin,
globalement, c'est à peu près fait pareil quand même. Hein.
C'est ça.
Ça a l'air d'être globalement la même chose.
Mais heureusement, il y a
2-3 pas de près, certains moments, mais.
Heureusement, il y a aussi des gens, quand on leur dit ce qu'on fait, ils disent waouh, c'est super. Enfin, voilà, comme vous qui nous avez invités ici.
C'est ouf, mais moi, j'avais pas vraiment idée de. Déjà, l'éthologie, tu m'as dit ce mot-là.
Oui,
tu m'as dit ce mot-là la dernière fois, j'étais là, qu'est-ce que c'est?
Ethnologie! Non, pas ethnologie, éthologie.
Mais c'est pareil, il y a des gens qui demandent c'est quoi la différence du coup avec l'ornithologie.
Vas-y,
comme tu veux. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors c'est marrant parce que j'ai fait un autre podcast hier sur Podcast Science où on parlait où je parlais un petit peu des fondations de l'éthologie. Et pour revenir à ce que vous disiez, c'est assez marrant parce que les premières études qui sont arrivées sur les animaux, c'était les naturalistes du XVIIIe siècle, donc Cuvier, Buffon, Geoffroy Saint-Hilaire, qui étaient au Muséum national d'histoire naturelle. Et leur but à ces mecs-là, alors déjà ils étaient super multicasquettes, moi ça me fait rire aujourd'hui parce que nous on est spécialisés sur genre le chant du diamant mandarin, eux ils étaient géologistes, botanistes, zoologistes, ils étudiaient tout. Et leur ambition à tous, c'était de savoir quelle est la place de l'homme dans le règne animal. Et c'est pour ça qu'ils se sont mis à s'interroger aux animaux pour savoir dans quelle case tu mets l'étoile de mer par rapport à la pâquerette, par rapport au bison, par rapport à l'être humain. Et je trouve ça marrant, et je pense que c'est tout le paradoxe de notre discipline, c'est de voir en quoi les animaux nous permettent de se poser des questions sur notre évolution à nous, sur l'évolution de notre société. Et il y a plein de questions qui restent en suspens. Alors, c'est ce qu'on écrit pour avoir de l'argent, c'est très très mal, mais il ne faut pas raconter que, moi par exemple, ce que je regarde sur les perruches, ça ne va pas nous donner les clés pour comprendre l'empathie chez l'humain. Ça serait un raccourci un petit peu trop rapide.
Non, mais c'est le but, mais le on but, va dire c'est le but ultime. Quoi.
Le but ultime, bien sûr, mais il faut creuser. Bah, et c'est sûr. Toujours intéressant de se voir que des espèces qui sont assez loin, nous, d'un point de vue de l'arbre évolutif, ont des comportements similaires. C'est assez effarant de voir que les chimpanzés, qui sont quand même déjà assez loin au niveau de l'arbre de l'évolution, ont des comportements très proches de nous. Quand ils se disputent, il y a des comportements de consolation. C'est-à-dire que quand deux singes se tapent dessus ou se disputent, il y en a qui viennent et qui font un câlin, qui passent les bras au-dessus de les épaules. Mmh. Et ça a été observé, ce genre de choses. Chez les corbeaux aussi, ça existe, la réconciliation, on appelle ça. Et il y a plein
ils
de
font choses. Des câlins, les corbeaux.
Oui, ils font des câlins. Ils sont des papouilles comme ça.
Et je me demandais, est-ce que, quand tu disais que tu avais une relation privilégiée avec tes oiseaux, mais est-ce que, du coup, ils connectent avec toi comme ils peuvent connecter entre eux?
Je pense pas. Et c'est même plutôt souhaitable et plutôt plus sain que ça se passe comme ça. Moi, par exemple, j'ai acheté les calopsites au début de ma thèse, donc c'était des bébés. Ils étaient à peine sevrés, ils étaient avec leurs plumes dégueulasses, genre, hey, on est des bébés. Et je les ai nourris un petit peu à la main pour les plus jeunes. Et au début, clairement, ils avaient des comportements. Enfin, dès que je sortais de la pièce, ils volaient, ils venaient se poser sur mon épaule, genre, non, pars pas. Ou je les nourrissais à la main, et en gros, ils étaient toujours collés sur moi. Et enfin, il y avait vraiment beaucoup d'interactions. Ils me faisaient des demandes de toilettage, j'ai tenté la tête comme ça, genre fais-moi une gratouille, ce genre de choses. Et puis, petit à petit, ils ont vieilli. Et moi, je les ai mis dans une pièce où ils sont en liberté, donc ils sont dans des volières où ils peuvent voler, où ils sont avec d'autres perruches. Et petit à petit, ce lien s'est un petit peu dissous. Et je pense qu'il s'est encore plus dissous, parce que là, j'ai pas mis les pieds dans l'animalerie depuis un petit moment. Et je pense que ce lien se distend, parce que justement, moi, j'ai essayé de recréer un truc le plus naturel possible. Moi, je voulais que les oiseaux, ils faisaient une vie le plus d'oiseaux possible, donc qu'ils fassent des connexions avec d'autres oiseaux. Mais des oiseaux que tu élèves petits, ils seront plus fidèles qu'un chat ou qu'un chien. Tu les as sur ton épaule toute la journée, et je te dis, ils vont être en demande d'affection. Moi, j'étais assez impressionnée, parce que mon premier stage, je l'ai fait par hasard, c'était mon stage de Master 1. Je l'ai fait à Nanterre avec des grilles du Gabon, donc des perroquets. À la base, moi, je flippais des oiseaux. En plus, des perroquets, un grille du Gabon, ça a un bec énorme. Tu te dis, oulala, il va venir me crever un œil, je vais pas m'en remettre. Et j'ai réalisé, enfin, en plus, les grilles du Gabon, c'est déjà des gros oiseaux, tu vois, ils font cette taille-là, t'as une vraie interaction avec eux. Et j'ai halluciné de voir tout ce qui était possible. Enfin, alors, on peut parler de personnalité, c'est un truc qui émerge de plus en plus. Avant, on essayait, c'était l'ambition des éthologues des années 60, Conrad Lorenz notamment, qui est un de ceux qui est le plus connu, Tim Bergen, leur credo, c'était de créer ce qu'on appelle des éthogrammes. Un éthogramme, c'est « je note tous les comportements d'une espèce ». Et leur idée, c'était que tous les loups avaient toute cette liste de comportements due aux loups. Les loups reniflent le sol, chassent, grattent le sol, se reniflent les fesses quand ils se rencontrent, tout ça. Et leur idée, c'était que tous les animaux d'une même espèce avaient le même comportement. Et de plus en plus, forcément, on s'est rendu compte que c'était pas le cas, et que Robert avait pas le même comportement que Gertrude, et que Gertrude n'avait pas le même comportement que Michel, et qu'il y avait cette part de variabilité entre les individus. Et c'est un truc qui émerge de plus en plus en se disant, bah oui, mais il faut peut-être arrêter de se voiler la face pour que tous les toucans du monde auraient le même comportement.
Alors qu'on voit bien que les chats aussi, ils ont
exactement. Et ce sont des choses qui font leur chemin petit à petit. Heureusement, ça change maintenant. C'est vrai que maintenant, on parle en vrai, dans des publications scientifiques, d'émotions chez les animaux, et c'est bien aussi, parce que c'est vrai que je pense qu'une grande partie des chercheurs en est convaincue, mais il y a toujours cette démarche, qui est la démarche scientifique, et qui a raison d'exister, parce qu'elle est rigoureuse et qu'on ne peut pas tirer des plans sur la comète, où on va analyser justement ce qu'on observe et pouvoir montrer que les animaux ont des sensations et que ce sont aussi des êtres à respecter. Voilà.
Et ouais, juste pour revenir à, parce qu'à la base, la question.
Oui, je crois que je digressais un petit peu, pardon.
Parce que du coup, en fait, les ornithologues, c'est oui, des gens qui ont appris, en fait, comme ce que j'ai fait un peu moi à Rennes, c'est-à-dire à d'abord reconnaître visuellement les oiseaux et aussi à reconnaître leur comportement et leur chant. C'est-à-dire, s'ils voient un oiseau super loin dans le ciel, tout là-bas, avec la façon dont il vole et sa silhouette, ils vont pouvoir te dire quelle espèce c'est et où cette espèce-là vit, comment elle niche, quel est son comportement. Non, alors que pas toujours le comportement, mais les meilleurs, on va dire, sont capables. Ils sont capables de voir une fiente par terre qui date de deux jours et de te dire ça, c'est une fiente de tel oiseau. qui est passé par là.
Âgé de 3 mois.
C'est ça.
Et il y a une ploue sur la queue qui a bougé en plus.
Donc en fait, c'est des gens qui ont en fait une très grande connaissance de tous les oiseaux, on va dire, et qui font beaucoup de travail de terrain. Donc c'est-à-dire qu'eux, ils sont directement dehors dans la nature à observer les oiseaux et à les reconnaître. Alors que moi, si je vais dans la forêt... les trois quarts, parce que maintenant j'ai perdu pas mal de mes connaissances, et ça s'apprend, mais je vais dans la forêt, je suis pas capable de reconnaître les trois quarts des champs d'oiseaux que je reconnais. Ouais. Donc en fait, nous on n'est pas du tout spécialistes, c'est comme disait Gata, on est hyper spécialistes, en fait, on n'est pas du tout spécialistes des oiseaux. Ouais. On s'intéresse bien sûr à tous les oiseaux, ouais. Mais nous on étudie une espèce d'oiseau en particulier et un aspect particulier de leur vie et de leur capacité, et donc contrairement aux ornithologues. Qui ont, eux, des connaissances plus larges sur tout le règne.
En fait, c'était ça le point de départ, j'ai repris le fil de ma pensée. Parce que quand j'ai parlé de Cuvier, Geoffroy Saint-Hilaire, etc., c'est qu'en fait, il y a plusieurs termes qui désignent l'étude des animaux, mais qui sont un peu désuets aujourd'hui. C'est comme zoologiste, par exemple. Zoologie, ça veut dire l'étude des animaux. Mais c'est tellement large qu'on ne sait pas de ce qu'on étudie. Est-ce qu'on étudie à les reconnaître, à les différencier? Est-ce que, en gros, si tu fais l'inventaire de tous les renards d'une zone, est-ce que t'es zoologiste? Ou est-ce que si tu vas étudier comment est-ce que les renards femelles choisissent leur renard mâle, etc. En fait, ornithologues, c'est vraiment des gens voilà, qui sont spécialisés sur les oiseaux, surtout qui ont cette démarche naturaliste de les reconnaître, de les identifier. Alors que c'est vrai que nous, on est plutôt dans une démarche où on va étudier un comportement précis. Et ouais. Chaque éthologue a son domaine de prédilection, exactement.
Et on peut juste on peut changer. C'est-à-dire moi j'étudie l'évolution culturelle du chant. Je peux très bien après ma thèse aller étudier le comportement vocal des dauphins
ou l'émotion des cochons
ou
la vie sexuelle des araignées.
Il y avait des gens sur le chat qui demandaient pourquoi est-ce que c'était une révélation d'être orienté vers les oiseaux. Mais en fait, non, c'est juste votre métier vous a... Là, à Nanterre, il y a des oiseaux, donc du coup, c'est ce que vous étudiez, mais suivant là où vous allez aller après...
Ça dépend. Après, il y a des gens qui rentrent en master d'éthologie et qui sont hyper déterminés à bosser sur le cheval ou sur, je sais pas, le lion. Et en fait, on apprend, en fait, les professeurs nous apprennent que non, c'est pas comme ça. L'éthologie, c'est pas ça. L'éthologie, c'est...
En général, les profs, ils te défoncent.
Ouais,
quand
ils te défoncent.
Ils disent, si tu veux sauver les dauphins, tu rentres chez toi tout de suite.
Et
non, c'est pas gentil, il faut aussi protéger les dauphins. C'est un autre métier.
C'est vrai, voilà. En fait, en éthologie, on apprend à étudier un comportement, enfin, ou un domaine, on va dire. Et normalement, c'est transposable à plusieurs espèces. Bon, moi, je pourrais peut-être pas passer du diamant mandarin à l'être humain, par exemple, parce que ça n'a pas du tout les mêmes caractéristiques.
Pourquoi pas.
Mais sur le principe, on a les mêmes connaissances en acoustique et en apprentissage vocal. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est se dire, je suis pas. Si un jour j'en ai marre des oiseaux, si un jour j'en ai marre des diamants mandarins, bah, je suis pas bloquée, je peux changer, c'est pas grave.
C'est juste qu'il faut relire toute la bibliographie du sujet. Donc il faut se relire tous les papiers qui ont été publiés depuis l'existence de la discipline sur ce sujet-là. Donc,
et c'est plus facile d'être intéressé par tous les animaux. Moi, je suis arrivée là-bas, j'étais intéressée par tous les animaux. Par mon parcours à Rennes, on avait beaucoup de choses sur les oiseaux et ça m'intéressait vachement. Donc, j'ai fini par faire sur les oiseaux. Mais pendant mon M1, j'avais le choix. J'avais été acceptée pour deux stages. Celui que j'ai fait en M1, donc qui portait sur les diamants mandarins. Et maintenant, j'y suis restée et je fais ma thèse. J'avais un autre choix. Je voulais absolument aussi travailler sur les abeilles, sur le comportement des abeilles, qui n'a rien à voir avec le comportement du chant du diamant mandarin. Et au final, bon, bah, j'ai dû faire un choix. Et en l'occurrence, j'ai fait un choix qui m'a... C'était un peu quand même une révélation. Et au final, je travaille là-dessus maintenant. Mais même un jour, si j'ai envie de travailler sur les abeilles, il n'y a pas de raison.
Moi, c'est un hasard complet, par exemple, les oiseaux. Moi, à la base, les oiseaux, c'était pas du tout mon kiff. Mais pas du tout. Mon tout premier stage, c'était sur des loups en captivité. Et j'avais regardé comment une troupe de loups réagissait. Parce qu'il y avait deux groupes de loups qui étaient un peu proches les uns des autres. Et en captivité, ce qui arrive quand certains animaux sont pas bien, ce qui n'est pas le cas, hein, je ne suis pas militante anti-zoo, c'est beaucoup plus subtil que ça, mais des fois, on a l'apparition de comportements qu'on appelle des stéréotypies. Concrètement, les stéréotypies sont ce qu'on appellerait des TOC chez l'humain, des comportements qui sont utilisés pour les animaux pour se rassurer, pour avoir une espèce de routine, mais des choses qui n'ont pas de sens d'un point de vue biologique. Par exemple, c'est de faire tout le temps le même chemin. C'est le fameux truc des lions ou des tigres dans les qui tournent en cage. Et,
Ah oui, bien sûr.
Et voilà. Et donc moi j'étais partie là-dessus. Moi j'étais beaucoup plus axée mammifères à la base, les oiseaux c'était pas du tout mon délire. Et en fait, en vrai, j'ai postulé pour le Master 1, je me suis dit les oiseaux jamais fait. En plus c'était d'un point de vue, parce que j'avais un appart à Paris, parce que j'étais étudiante à Paris 13, je me suis dit j'ai peut-être pas envie de prendre un appart pour 3 mois à Marseille. Hein. Donc j'ai cherché en région parisienne, je suis tombée à Nanterre, ils m'ont pris. Et puis bah, là ça a été une révélation, parce que je me suis dit à la vache, en fait les oiseaux,
on peut
faire plein de trucs. Mais mon premier Master 2, parce que j'ai dû en faire deux parce que j'ai galéré pour ma thèse, mon deuxième c'était sur sur des lémuriens, des petits lémuriens à Brunois, qui c'est aussi en région parisienne. Et c'était vachement chouette, quoi. Donc, c'était très différent. Donc, je dirais qu'il y a un mélange d'opportunités, parce qu'il faut aussi être au bon endroit, au bon moment, où il y a un poste, et où, si on a envie de continuer, il y a une opportunité pour enchaîner. C'est vrai que l'enchaînement master de thèse, moi, je ne le savais pas quand j'étais une petite étudiante. J'aurais bien aimé qu'on me le dise, mais c'est vrai que c'est crucial de vouloir faire son M2 là où on a envie de faire une thèse. Parce que si on fait un M2 là où il n'y a pas de thèse, en gros, on se retrouve à la fin de son master 2 avec son diplôme d'éthologue, mais pas de thèse, et on galère pour trouver des sous et la suite, quoi.
Faut pas, ouais.
Je vais vous poser une dernière question parce qu'il est déjà 22h30. Est-ce que vous avez des livres à recommander aux gens qui s'intéressent ? Là, il y a des gens sur le chat qui sont là, mais c'est trop intéressant, c'est trop cool. Qu'est-ce qu'on peut lire ? Des livres de vulgarisation qui parlent d'éthologie ou du comportement des animaux ?
Il y en a tellement. Il y en a un, moi, qui me passionne, donc c'est sur les abeilles. Mais c'est un livre de Carl von Frisch, donc c'est un scientifique qui a eu le prix Nobel en même temps que Konrad Lorenz et Tinbergen.
Le seul prix Nobel de toute l'histoire qui a été donné à des éthologues, étaient trois les mecs, donc j'ai envie de dire que c'était bien d'en faire un nouveau. Mais
et parce qu'il y a des bouquins d'éthologie, on a plein, on peut lire les Konrad Lorenz, mais c'est un peu difficile.
Disons que c'est un peu aride, pas ultra vulgarisé.
C'est pas très agréable.
Mais Konrad Lorenz, donc c'est années 60-70, il a eu le mérite de publier plusieurs livres. Tinbergen aussi, on a fait un qui s'appelle, je l'avais dans mes petits papiers hier, A Study of Instinct, l'étude de l'instinct. Je pense qu'il a été traduit en français. Sinon, il y a dans les trucs, le bouquin sur lequel nos profs donnaient cours, il s'appelle Éthologie, de Campan et Scapini, mais c'est un gros bouquin qui est malheureusement épuisé.
C'est cher en plus.
Qu'on trouve hors de prix à 70 euros d'occasion.
Mais le livre de. C'est pas sur l'éthologie en général, c'est sur le comportement des abeilles, mais c'est vraiment passionnant. C'est Vie et mœurs des abeilles de Carl von Frisch. Et celui-là, je crois qu'il est. Je crois qu'ils sont tous un peu chers, mais on peut le trouver facilement dans les bibliothèques.
C'est ce que j'allais dire, peut-être que c'est en bibliothèque.
Sinon, il y a un autre bouquin de référence qui est plus facile à trouver que le Campan et Scapini, qui s'appelle aussi Éthologie, mais c'est le Macfarlane. Ce sont des gros bouquins à couverture bleue qui sont édités aux éditions Duno, je crois. Non, De Buck. Enfin, c'est des bouquins universitaires qui ne sont pas forcément très drôles. En truc plus vulgarisé, il y a des choses qui existent.
J'ai commencé à m'intéresser à l'éthologie parce que ma grand-mère m'a offert un livre et j'ai oublié le nom, mais je crois que c'est Histoire incroyable d'animaux, quelque chose comme ça.
Il n'y a pas un ornithorynque en couverture ?
Non, c'est plein d'animaux d'animaux.
Mais plein de ces anecdotes, mais c'est pas un ornithorynque.
Je pourrais redonner plus tard si tu veux donner la référence. Et c'est un livre en fait, qui raconte de manière très vulgarisée plein d'anecdotes justement sur le comportement de certaines espèces. Par exemple, je me souviens qu'il y avait une histoire où c'était un couple de flamants roses gays qui avait adopté un petit. Qui avait couvé un œuf, qui s'en était occupé. Et il y avait plein de petites histoires comme ça. Donc, au niveau point de vue scientifique, c'est pas hyper précis. Mais pour sensibiliser déjà au comportement animal, c'est vraiment bien. Donc, je retrouverai le titre et je te redonnerai.
Sinon, plus récemment, moi, je suis assez fière de dire qu'on a un des fondateurs de notre laboratoire, qui s'appelle Michel Kreutzer, qui a écrit et qui est paru seulement il y a 2 mois un livre de la collection Que sais-je, qui s'appelle L'éthologie, et qui n'existait pas avant. Il coûte 9 euros. Et là, c'est plus un inventaire des fondateurs de l'éthologie. Donc, ça a un petit peu un côté théorique qui peut être. Il faut que vous le sachiez. C'est un côté un peu théorique où ça vous raconte tous les courants de pensée. Mais c'est intéressant aussi de voir comment la discipline s'est constituée.
De toute façon, c'est toujours bien
ça.
En plus. Et puis de toute façon, c'est ce qu'on apprend. Si vous êtes intéressé par ça, que vous allez en cours, c'est ce que vous allez apprendre en cours si vous voulez faire ce parcours-là. Donc, c'est pas inutile non plus.
Et dans un autre genre, ça fait un peu autopromotion, mais moi j'ai participé à l'écriture d'un livre qui est sorti aux éditions Belin en mois de mars, qui s'appelle La science à contre-pied, qu'on reconnaît parce qu'il y a une belle otarie sur la couverture, et qui a été écrit avec 40 membres du Café des sciences, qui regroupe des vidéastes, des blogueurs, sur plein de sujets différents de sciences. Mais pour ma part, j'ai participé et illustré un article sur l'infanticide chez les animaux et un autre que j'ai rédigé sur l'intelligence des oiseaux. Et qui, là, est de la vulgarisation. Il n'y a pas de termes trop techniques. Il y a quand même des références biblio si vous voulez lire les articles en anglais, mais ça a déjà été un peu édulcoré par rapport aux publications originelles.
L'infanticide chez les animaux.
Et il y a plein de trucs super intéressants et plein de trucs dégueux. Mais
les lapins, ils tuent leur bébé, ils les bouffent.
Ça, c'est les rongeurs, mais c'est dans des cas. C'est surtout les hamsters et les cochons d'Inde qui ont traumatisé des générations d'enfants quand ils font des bébés et qui les grignotent au petit-déj. Je crois que c'est des cas un petit peu où la mère, en fait, elle se sent pas à l'aise.
Ouais.
Et du coup, elle mange ses petits.
Ce qu'on nous avait dit, nous. On avait un lapin nain et on nous avait dit attention, elle peut manger les petits.
Ah là là,
on ressent bien.
Et puis c'est, oui, c'est un petit peu dégueu. Mais moi, j'ai appris plein de choses parce que c'était pas du tout, du coup, dans ma discipline. Autant intelligence des oiseaux, ça allait parce que ça fait 4 ans que je suis dessus. Mais là, sur l'infanticide, j'ai appris plein de trucs super chouettes. Notamment des femelles qui. Parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe dans l'infanticide. Bon, après, on s'arrête, promis. Hein, j'arrête de parler. Mais dans l'infanticide, souvent, ce qui se passe, c'est qu'en gros, il y a un mâle qui arrive et il y a plein de femelles dans un groupe. Et le mâle, bah, il a intérêt à buter les petits du mâle précédent. C'est souvent le cas chez les lions. En gros, il y a un nouveau mâle qui arrive. Les petits qui sont d'avant, c'est pas les leurs. Et donc, eux, l'intérêt, c'est de transmettre leurs gènes. Donc, ils zigouillent les petits des autres. Ouais. Mais il y a plein de stratégies qui existent, de contre-stratégies. Il y a même des femelles qui font l'infanticide. Notamment, il y a aussi un truc drôle avec des langurs qui sont des singes, où en fait, les femelles, pour pas se faire zigouiller leurs petits, en fait, elles sont déjà gravides, elles sont gestantes. Et elles font des fausses chaleurs pour s'accoupler avec le nouveau mâle, et comme ils sont pas très doués en mathématiques, comme ils savent pas si le petit à naître c'est le leur ou pas, bah il y a beaucoup moins d'infanticide. Donc en fait, elles sont déjà enceintes, elles font du sexe avec le nouveau mâle, et elles cachent le fait d'être gestantes pour être tranquillou et pour que leur petit soit pas tué.
Ah, c'est
fou. Non, mais il y a plein de super stratégies comme ça, voilà.
Et regardez des docus aussi. Maintenant, il y a plein de trucs, vu que c'est à la mode,
il y a plein de trucs sur YouTube qu'on peut trouver. Comment il s'appelle, il y en a un qui est super top.
Ouais, qui est un peu vieux.
Sur
l'intelligence des animaux, je crois d'ailleurs, ça s'appelle. Si vous tapez intelligence des animaux Arte.
Oui, parce que c'est toujours
sur YouTube,
Arte, hein,
vous allez les trouver.
Pas se
leurrer. C'est toujours Arte.
C'est toujours Arte ou la BBC. Ou la BBC. Ouais. Parce que France 2
diffuse. Ou la BBC, ouais, les documentaires Earth, Planet Earth.
Mais là, comme
BBC.
Ça, des bouquins de vulgarisation.
J'en ai pas lu des masses. Hein. Pas besoin de lire beaucoup de livres.
Alors récemment, et je crois qu'elle est venue sur votre antenne, Mademoiselle, moi je l'ai acheté depuis septembre, mais je l'ai pas lu. Il y a le livre L'intelligence animale d'Emmanuel Pouy de Bas qui est sorti, qui est en français, et qui est une chercheuse du CNRS qui est à Brunois. Et je pense qu'il y a des trucs chouettes. Elle doit parler des corbeaux de Nouvelle-Calédonie qui parlent d'outils, enfin des trucs cool quoi.
Ah ouais, ceux qui cassent les trucs.
Les corbeaux de Nouvelle-Calédonie font des petits bâtons et puis ils vont chercher des larves dans le bois. C'est assez cool. Voilà, voilà.
Trop cool. Alors j'ai récupéré un mail d'une jeune femme qui est en L2 de biologie qui voudrait vous poser des questions, donc je vous le passerai après. En tout cas, les gens sont très intéressés. J'ai noté toutes les citations de livres que vous m'avez fait. Je vais essayer de
te les donner après si tu veux aussi.
Et bien sûr, si vous écoutez cette diffusion ou ce podcast, tous les liens seront sur le replay de Mademoiselle, donc sur le site de Mademoiselle. On va se quitter parce qu'il est déjà 22h40. C'était vraiment très intéressant. Merci à toutes les trois d'être venues. C'était vraiment
merci Louise.
Chouette.
Merci.
Et merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. Ouais. En tout cas, sur le chat, vous aviez l'air convaincus. Donc, j'espère que ça va convaincre les personnes qui écouteront un podcast.
Bon, en tout cas, je regarde Steven Universe ce soir.
Mais moi aussi.
D'ailleurs, si vous nous écoutez en podcast, n'hésitez pas à nous donner de l'amour en forme d'étoiles sur iTunes parce qu'en fait, bah, ça nous aide. Ça nous file un coup de main. On va monter un peu et les gens, ils vont nous découvrir. Donc, n'hésitez pas à aller nous noter sur iTunes, ça nous fera toujours plaisir. Et je rappelle aussi que vous pouvez participer à l'émission. Vous n'êtes pas obligé d'être à Paris. Si vous avez une passion et que vous voulez en parler, vous m'envoyez un mail à louise@mademoiselle.com en mettant en objet C'est ça qu'on aime et le nom de votre passion, quelle qu'elle soit. Et vous m'expliquez dans le mail pourquoi c'est trop cool et pourquoi on devrait en parler dans C'est ça qu'on aime. Et faites pas les timides parce qu'après moi je vous appelle et on en discute de vive voix. Et peut-être que vous serez soit physiquement à Paris, soit sur Skype, il n'y a pas de souci. La dernière fois, on était en Autriche, je crois. Voilà. Alors, ça va, on a de la marge. Non, en République tchèque. Voilà. Et ben, écoutez, encore merci les filles. C'était vraiment
merci
très
Louise.
Cool de vous avoir. Et on se quitte avec Astrid S. Ciao tout le monde.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Fight me off like a firefighter. So tell me why you still get burned. You say you're not, but you're still a liar. Cause I'm the one that you run to first. Every time you I do, you try to deny when you show up every night and tell me that you want me, but it's complicated. When it hurts, but it hurts so good. Do you take it? Do you break it off when it hurts? But it hurts so good. Can you say it? Can you say it? Your love is like anime night, na na. Your love is like anime night, na na. It hurts so good. Anime night, na na. Every time that I swear it's over, makes you want me even more. Pull away and I'm coming closer. And all we ever stay is torn. Baby, I don't know why I try to deny when you show up. Every night I tell you that I want you, but it's complicated. When it hurts, but it hurts so good. Do you take it? Do you break it off when it hurts? But it hurts so good. Can you say it? Can you say it? Your love is like anime night, na na. Your love is like anime night, na na. It hurts so good. Anime night, na na. Wide awake through the daylight, would you hold me like we're running a yellow light? Reach for you with my hands tight. Are we dancing like we're burning in paradise? When it hurts, but it hurts so good. Do you take it? Do you break it off when it hurts? But it hurts so good. Can you say it? When it hurts, but it hurts so good. Do you take it? Do you break